Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 novembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 4, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Vous trouverez peut-être que cette émission n'a pas l'enjouement habituel, mais c'est parce que notre camarade ADG, qui a toujours manqué de savoir-vivre, vient de nous le faire remarquer avec encore plus d'insistance que d'habitude, puisqu'il a eu le mauvais goût de mourir le jour de la Toussaint, ce qui nous fait un grand trou, un trou à la mesure de son tour de taille. Et voilà, je voulais lui dédier cette émission, et puis... un tout petit peu de musique qui évoquera notre amitié de 30 ans, la vraie celle-là.
La mort chevauche à travers le pays, frappant sans choix les héros, les bannis. Fuyez ennemis, sinon vous mourrez, nous autres à Sahel n'avons de regrets. La 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 Nous les chargerons sans te craindre aux morts, car tu es notre ami et nous vainquons encore. Pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. La mort fauchant, rasant et dévastant, des cimorans frappant les survivants. Mais le soir venu, nous la chanterons, sans rancune, car c'est un vieux compagnon. Pa-la-la, la-la, la-la, la-la. la 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 Le Dieu des combats nous accueillera, alors festoirons et ripaillerons en ton honneur. Ô mort, rôdant sur nos chemins, ô mort, rôdant sur nos chemins, là. Adieu, vieille Europe, que le diable t'emporte.
Ça, c'est pour que le diable sache que pendant qu'il emportera la vieille Europe, il n'aura pas la force de porter en plus un DG. Donc les anges ont le temps de venir le récupérer. Ce soir, au programme, une surprise, le docteur d'or.
Bon, ça, c'est pas une surprise.
Vraiment, ça, c'est tout. Oh pardon, oui c'est vrai, j'étais tellement... Alors effectivement, les obsèques d'ADG auront lieu vendredi à 10h à l'église Saint-Eugène.
Sa paroisse.
Ça, qui était sa paroisse, qui se trouve rue
du Conservatoire.
Rue du Conservatoire. Rue du Conservatoire au 4.
Vendredi à
10h. Tout le monde sera là. Tous ses amis seront là, ce qui va faire quand même beaucoup de monde. Donc je reviens à ce programme de ce soir. La surprise, c'est le docteur d'or. Une autre surprise, puisque décidément, c'est un soir de surprise. Monsieur l'abbé Cellier.
Bonsoir.
Encore une autre surprise. Là, vous avez carrément succombé sous la stupeur. Roger Olindre. Hein?
Oui, bien.
C'est quand même formidable. Et puis, en deuxième partie, deux invités. Alors, ça ne surprendra personne, puisque... Il s'agit de Michel Bauger, qui est président d'une association écologique, mais des vrais. Pas des écolos, pas des verts, c'est un vrai écolo.
Des verts rouges, non,
un écolo intelligent, donc comme quoi ça existe. Et Claude Moliterni, qui sera reçu par Guy Le Hideux sous l'égide de votre serviteur.
De la BD, peut-être.
Et on va parler de BD avec Claude, qui vient de publier une encyclopédie de la bande dessinée dans laquelle il a eu l'excellente idée de me consacrer un article, donc je ne pouvais pas faire trop que de l'inviter.
Avec la célèbre histoire délicieuse que j'aime beaucoup avec Dimitri, quand vous avez corrigé l'allemand de Dimitri.
Oui, c'est ça.
À l'époque, quand vous aviez raconté ça dans le choc du mois.
C'était
grandiose.
C'est une belle histoire. J'avais corrigé une bande dessinée de Dimitri qui se terminait par le mot « la fin » en allemand. Et j'étais arrivé en disant « mais ça ne s'écrit pas du tout comme ça ». J'avais donc corrigé le mot. Et le rédacteur en chef de Pilote, qui s'appelait Gérard Pradal à l'époque, m'avait dit « vous êtes sûr ?» Écoutez, je parle allemand couramment. J'ai fait 8 ans d'allemand à l'école. J'ai vécu en Allemagne et tout. Je parle allemand comme père et mère. Il avait donc fait soigneusement gratter la planche, et puis quand Dimitri est arrivé, il y a eu quand même un moment de sévère engueulade, d'abord parce que Dimitri est pas taillé dans le sein doux, on peut dire, même le silex est un peu mou à côté de lui, et accessoirement il avait quand même passé 4 ans dans les rangs de l'armée du regretté chancelier, et il trouvait que le fait de corriger son allemand était un manque de courtoisie assez remarquable.
Sa
mère est allemande en plus, voilà. Et donc on a eu quelques mots et on est devenus amis ensuite, voilà, parce qu'on s'est trouvé un répertoire de chansons en commun, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, c'est monsieur Roger Hollande qui fait son entrée comme d'habitude,
spectaculaire,
une espèce de légèreté, de discrétion. Bonsoir Roger, comment... Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es mordu. Notre ami Roger a une canne. J'espère que c'est pas pour me taper dessus.
Sans problème à la hanche.
Ça peut servir.
Alors voilà, comme ça, c'est de la radio cinématographique, on vous raconte tout ce qui se passe. Donc, docteur, vous nous faites un petit point de l'actualité.
Voilà, un petit point de l'actualité. Alors, une actualité toute récente, vous êtes certainement au courant.
Si vous permettez, je vous coupe déjà parce que...
Oui.
Je voudrais quand même faire remarquer aux auditeurs que... D'ailleurs, Goffman leur dira tout à l'heure un mot là-dessus. Mais pour l'instant, on peut d'ores et déjà dire que vous écoutez en ce moment la seule émission de radio en France où il ne sera absolument pas question de l'élection de Blanc-Bonnet contre Bonnet Blanc.
Ah. Voilà, c'est toujours j'avais un penchant pour Bouge, d'ailleurs.
C'est ça, oui.
Ah oui.
Alors, si vous couriez aussi vite que je m'en fous, vous seriez vraiment champion du monde.
Ah bon, c'est vrai.
Franchement.
C'est vrai.
Oui, c'est ça. Oui.
Enfin... On a dit qu'on n'en parlerait pas.
Ben non, voilà.
On va pas terminer avec les fourchettes dans le dos.
Non, mais je comprends pourquoi il est pour Bush.
Oui, c'est facile à comprendre.
Il est contre l'avortement, Bush.
Et contre l'homosexualité.
Il préfère attendre que Jean ait 20 ans pour les envoyer se faire tuer.
Oui, oui. Ah oui, mais ça, c'est une erreur.
Comment il s'appelle, là, qui les attend à la sortie? Bon, ça va, allons passer.
Enfin, voilà.
À vous, docteur.
Ah oui, alors, la brûlante actualité, enfin bon, parisienne, celle-là, vous le savez sans doute, eh bien, les chrétiens sont sortis dans la rue. Et ça, alors c'est assez étonnant, c'est à mettre au compte de l'archevêque, parce que le cardinal, à la Toussaint 2004, donc, a demandé, avait préparé à l'avance, pour cette date, vous le savez, toute une... enfin, il y avait bien des manifestations, il y avait des conférences, il y avait des reliques à vénérer, c'est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la Trente des Victoires, et on a été dans la rue véritablement. J'en ai fait partie, j'ai distribué le samedi 30, comme beaucoup de monde d'ailleurs, ce n'était pas original, il y avait 100 000 personnes. Eh bien, je dois dire, honneur à un évêque qui met 100 000 chrétiens dans la rue, et ça a été reconnu par France Inter, qui a dit la religion est de retour. Le chiffre de 100 000 vient de France Inter, et de... Alors je dis honneur à l'évêque.
Enfin, après les avoir chassés des églises, c'est normal qu'on les retrouve dans la rue. Hein.
Alors, non, mais alors, je trouve, c'est ça, c'est très curieux, c'est qu'il y a des contradictions chez le cardinal. C'est ça que je voudrais peut-être un peu, d'abord le remercier pour ça, parce que je ne peux pas faire autrement. Moi, je pense que notre péché à tous, en quelque sorte, c'est de ne pas aller dans la rue. Nous sommes chrétiens, mais il faut rester chez soi. Et ça, c'est la laïcité type maçonnique, à savoir que la religion n'est pas faite pour n'est pas une affaire sociale, c'est une affaire strictement privée. Pour le reste, c'est le pluraliste, c'est-à-dire autant de catholiques que de musulmans. Bref, je dirais une horreur. Or, je ne comprends pas comment, Monseigneur Lustiger, je ne crois pas dire de bêtises, pense que la séparation de 1905 entre l'Église et l'État est une chose, après tout, c'est le bien commun, presque, je ne sais pas, un vivre ensemble, ce qui, à mon avis, est une folie. Enfin, je ne veux pas dire des choses qui dépassent ma pensée, mais là, véritablement, je pense qu'il n'y a pas de problème, à savoir que c'est l'État qui se fait Église. C'est plus qu'une séparation de l'Église et de l'État, c'est l'État qui se fait Église. C'est-à-dire qu'elle peut décider du bien et du mal, l'État peut décider du bien et du mal, du vrai et du faux. C'est-à-dire, nous sommes en plein péché originel collectif.
Il y a un dessin,
et ça, c'est pas admissible.
C'est un dessin aussi qui circule sur le net en ce moment. On voit quelqu'un qui est dans un confessionnal sur lequel il y a à la place de la croix un coq, et à la place du symbole christique il y a République française, et le gars qui se confesse dit je confesse avoir porté une médaille de la Sainte Vierge pour aller à l'école et être allé, enfin je ne sais plus ce qu'il a fait d'autre. Et le prêtre républicain lui dit, eh bien, pour votre pénitence, vous travaillerez le jour de la Pentecôte. de la Pentecôte.
Oui. Ah, ils sont terribles.
Voilà, mais c'est vrai que c'était d'ailleurs le thème de Renaissance catholique, de l'université d'été de Renaissance catholique cette année.
La laïcité.
La laïcité. Comme religion.
Mais comment se fait-il que nos évêques acceptent cette laïcité qui est la ruine même de l'Église, et c'est l'abandon de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, c'est l'avortement, puisque à partir du moment où c'est l'État qui commande, après tout, puisque c'est lui qui décide du bien et du mal, eh bien, on va tuer nos enfants, on va marier les homosexuels, on va mettre le planning dans les écoles, on va interdire évidemment le lundi de Pentecôte, enfin, éviter que ça puisse servir à autre chose qu'à rembourser, je ne sais pas, des dettes, je ne sais pas quoi. Enfin, non, c'est un atroce. Ça, je ne comprends pas. Mais alors, encore une... Là, il y a une contradiction. Mais heureuse contradiction, finalement, parce que c'est tout ce que nous demandons. Et bien entendu, je l'ai pensé, dès que j'ai eu vent, connaissance de cette... déjà depuis longtemps, de ce projet, de tout ça, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi, s'il arrive à déplacer du monde, 100 000 personnes, c'est quand même quelque chose, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt au sujet de choses tellement graves? Car j'ai fait le compte tout à l'heure, je regardais des... Combien ont tué à Paris d'enfants, dans le diocèse de Paris, intramuros. Eh bien, la dernière... je sais pas si vous savez le nombre, mais c'était au... Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 17 000 quelque chose. C'est une chose très précise, 17 000. Bon, on peut estimer même à 15 000, si vous voulez, en 30 ans, ça fait 450 000 morts. C'est-à-dire qu'à Paris même, dans le diocèse de Monseigneur Lustiger, on a tué au moins, parce qu'il y en a beaucoup plus, vous pensez bien, avec toute la contraception, on a tué 450 000 à 500 000 enfants, et à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, la population est de 2 millions, je crois, dans Paris, intramuros, c'est-à-dire le quart de la population. Alors, je ne comprends pas comment, et alors, je me réjouis encore une fois que l'Église aille dans la rue. Mais pourquoi cette prise de conscience si tardive? Là aussi, il y aurait peut-être une repentance, n'est-ce pas? Mais c'est effrayant. Et alors là, je me supplie.
Pardon, ils ne sont pas descendus dans la rue contre l'avortement, ils sont descendus dans la rue pour faire une concurrence à l'OUEN.
Voilà.
Je dois dire d'ailleurs que j'étais extrêmement choqué et vexé parce que l'idée est de moi. J'ai lancé cette idée il y a 5 ans dans le Libre Journal en disant mais qu'est-ce que les catholiques attendent pour organiser se plaignent de l'OUEN. Il vaut mieux d'organiser eux-mêmes leur propre fête de la Toussaint. Et c'est ce qu'a fait Lustiger, dont je ne savais pas qu'il lisait le Libre Journal. Il a mis ça
Écoutez, il vous a écouté. Il a bien fait.
Oui, mais il a fait une bêtise quand même, parce que pourquoi aller appeler ça Halloween alors que tout ça me paraît largement suffisant.
C'est évidemment...
Quoi, en victoire des saints, non
C'est ça. Non, ça je ne veux pas pour ça. Non, mais franchement, c'est un succès.
Vous êtes plein de charité.
Non, je dis la vérité. Non, c'est pas... La charité ne va pas sans la vérité. Mais je dis la vérité. Parce que je me suis mêlé à tout le monde qui était là, ça. Il y avait une gentillesse entre les gens. Il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des Portugais, imaginez, des Européens, des Autrichiens, bien entendu, puisque le cardinal Schönbrunn était aussi un des... Ils sont quatre, et même cinq, avec le cardinal d'Estergom Budapest, qui s'est mis aussi dans la partie. Il y a un Belge, celui de Malines, Bruxelles. Il y a un Portugais de Lisbonne. Bref, il y a cinq cardinaux archevêques européens qui sont dans l'affaire. Alors voilà, c'était à Paris. La prochaine fois, ce sera à Lisbonne, l'année prochaine. Et la dernière fois, c'était pour l'ascension à Vienne. Donc, honneur à eux, si les chrétiens sortent de l'église. Alors là, je trouve que c'est une bouffée d'air. Vive le cardinal, si je puis dire. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas penser à tous ces petits qu'il a laissés de côté pendant si longtemps. J'espère que maintenant, il aura un œil, je dirais, attendri vers ces petits.
C'est qu'il croit, Grégoire.
Il ne peut pas rester indifférent. Il crie, ces petits crient. Même les pierres crieraient. Donc, il va les entendre. Et donc, encore une fois, je suis heureux de féliciter le cardinal, si vous voulez.
C'est pas tous les jours.
Voilà. Alors, pour le reste, alors oui, et bien sûr, je ne vous parlerai pas donc de... Quoi, c'est dommage de ne pas parler de l'histoire américaine. Mais donc, je vous dirai...
Si vous voulez en dire un mot, vous pouvez en parler. Je n'y vois pas d'accord.
Écoutez, vous le voyez, il n'y a rien qui soit désagréable. Enfin, qui ne soit pas, je pense, de la vérité. J'ai entendu à France Inter, j'écoute France Inter. Eh bien, 80% des Français auraient voté...
Ça ne pas porter un silice ou une ère ou une discipline ou je sais pas.
80% des Français auraient voté pour l'adversaire de Bush.
Oui, ça m'étonne.
Voilà. Mais ça vous dit rien, 80%?
Non.
80%, c'était le chiffre, 82% exactement, pour élire Chirac.
J'ai écouté aussi, en venant là, tout simplement parce que la radio de ma voiture étant en bon état, je ne peux écouter que France Finctère. C'est pas toujours très agréable, mais enfin c'est comme ça. Alors j'ai écouté le répondeur de Monsieur Daniel Mermet. Bon, moi, que ce soit Bush ou Kerry, je dois dire que je m'en fous, mais absolument, pour moi, c'est exactement les deux faces de la même pièce. Mais en entendant ça, en entendant la réaction de la racaille, parce que c'est vraiment la racaille, c'est le fin fond du pot de chambre qui téléphone à Mermet, d'un seul coup, je me suis dit, ah, je suis quand même drôlement content que ce soit Bush, parce qu'ils font une telle tronche, ils sont tellement fous.
C'est tant mieux, parce que de quoi nous mêlons-nous?
Exactement.
Les Américains font ce qu'ils veulent chez eux. Bon, ben voilà. Moi, je suis très content que ça soit Bush, parce que justement, on voulait que ça soit l'autre.
Moi, je suis heureux, très heureux que ça soit Bush.
Un type a dit au téléphone, ça prouve bien que les Américains sont des bœufs. Mais j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Il y a 2 ans, les Français ont élu Chirac à 90%.
82.
82%.
Oui, c'est pas loin de 80.
Hein, et maintenant, ils sont, ils trouvent que les Américains sont des imbéciles d'avoir voté Bush, et ils vont leur donner des leçons. Moi, je trouve que quand on a un président de la République qui s'appelle Chirac, on la ramène pas.
Ça, on a vomi sur Bush de la même manière qu'on a vomi sur Le Pen entre les deux tours. C'est la même démarche.
Mais il y a une chose qui sont les mêmes. Je suis certain que tu disais au début, là, quand je suis arrivé, que tu te tapais totalement de cette élection. Je veux dire que moi, c'est exactement la même chose. Je n'ai jamais réussi à comprendre la différence entre l'un ou l'autre, que ce soit à cette élection ou à d'autres élections. Mais hier, en cherchant un film, hier soir avec ma femme, on est tombé sur toutes les chaînes où il parlait des élections aux États-Unis. Et j'ai vu là des choses, et j'ai dit à ma femme, mais enfin, il ne se passe pas quand même que des choses tordues aux États-Unis. C'est quand même étonnant qu'on va chercher chez eux que tout ce qui est dégueulasse, alors qu'il y a un sentiment patriotique et un sentiment religieux qui est tout à fait respectable.
Voilà. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents.
Oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents.
Alors,
c'est vrai que je n'ai pas tout. Vous savez, à mon avis, les démocrates ont très mal choisi leur candidat qui est un gauchiste, finalement. Alors, bon, les gauchistes pleurent, je mets à leur place, enfin, difficilement, mais bon, voilà. Mais bon, alors, je voulais donc vous dire que le 11 novembre, c'est évidemment, chacun sait que c'est la Saint-Martin, que le maréchal Foch a signé à Rotonde. Et juste une chose à propos du maréchal Foch que les gens connaissent peut-être déjà, mais ils ne le savent peut-être pas, que Foch a été 3 fois maréchal. Et il a été maréchal de France, bien sûr, il est chef des troupes alliées, il a été maréchal d'Angleterre, ça, c'est une chose vraiment, je ne sais pas s'il y a tellement de maréchaux des deux pays, et puis alors le troisième, qui n'est pas connu, il a lutté contre les soviétiques, je crois c'était en 21, et il est aussi maréchal de Pologne. Et bien alors, honneur à ce maréchal Foch, donc, qui habitait mon quartier, entre parenthèses, il habitait avenue de Saxe, tout près de la place de Breteuil, on l'a vu le voir, il y avait une foule.
Maréchal de Saxe.
Oui, avenue de Saxe, ah oui, maréchal de Saxe, encore un autre maréchal, si vous voulez. Et alors il a été, je crois, porter le document à l'Élysée, suivi par une foule en liesse, bien entendu, qui pleurait et qui évidemment criait son bonheur aussi. Et voilà. Et alors il disait ceci, le maréchal Foch, une phrase très belle, au fond qui est presque le sens de notre vie, l'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme n'est grand qu'à genoux. C'est-à-dire qu'il reconnaît, c'est la première des béatitudes, nous sommes à la Toussaint, c'est-à-dire que c'est la première qui engendre toutes les autres, c'est-à-dire que si nous sommes pauvres de nous-mêmes, si nous reconnaissons une dépendance, si nous sommes heureux de cette dépendance, eh bien nous avons les béatitudes. Et je pense que Foch était dans les béatitudes, quoi qu'il ait fait aussi peut-être des bêtises.
On a publié dans le numéro du Libre Journal un petit papier sur des aspects inconnus de Foch, c'est-à-dire que quand on l'acclamait, il disait pendant la guerre qu'il allait dans les rendre des visites comme ça, et il était acclamé dans la rue, il disait toujours non, ne m'acclamez pas, je ne suis rien, priez pour nous. C'était superbe, il était très croyant,
il allait toujours à la messe, je crois. Oui. Alors je veux dire, à propos du 11 novembre justement, que le matin, il y a deux manifestations, alors là, si t'as pas le manqué, le 11 novembre donc est un jour férié, c'est le jour de... il n'y a pas de pont, parce que c'est un jeudi, c'est difficile de faire un... je dis pas de bêtises, oui, c'est un jeudi, donc on s'est dit de faire un pont, on est plutôt à Paris, il fait pas tellement beau, et bien que pour une fois, je dirais qu'on pense aux plus petits, et il y a deux manifestations à leur sujet, l'une au Trocadéro, pas loin de la statue de Foch, justement, je crois, et là c'est M. Grenouillot avec le CSEN, Comité pour sauver l'enfant à naître, M. Grenouillot, à 11h du matin, place le Trocadéro sur le parvis. Ne manquez pas ça, et puis juste après, enfin un peu plus tard, à 14h30, ne manquez pas ça non plus, venez nombreux, c'est à l'endroit habituel, près du planning, nous serons place de la Bourse, place de la Bourse, à côté du métro Bourse, au coin Vivienne où se trouve le planning, district Vivienne, nous serons environ 30-40, je ne sais pas exactement, et intersection avec la rue du 4 septembre.
Le premier qui dit que place de la Bourse est une bonne adresse pour lutter contre l'avortement, je le sors de ce studio. Bon, hein, ça fait bien compris.
Alors, j'avoue que là, nous faisons de plus en plus notre nid, je dirais. Et je pense que nous aurons pas mal de monde. Parce que ça va être dit dans quelques églises. Alors, je crois que les gauchistes, il faut qu'ils se tiennent bien. Alors, que je vous dise une dernière chose, c'est que nous étions samedi, c'était le 23 octobre, c'est ça. Nous étions au Chénet. Là, on était 70, peut-être 80, je ne sais pas. Beaucoup de jeunesse, enfin, parmi les présents, beaucoup de jeunes. Une majorité, je pense. Et puis, en face, le cœur habituel. Et les blasphèmes, tout ça. Je suis parti un peu le dernier parce que je ramassais les affaires. Et alors j'entendais dans le haut-parleur, ils parlaient encore. Alors rendez-vous, c'est eux qui donnaient le rendez-vous. Alors rendez-vous de leur côté. Rendez-vous le 11 novembre à la place de la Bourse à 14h30 et tout ça. Alors c'est curieux, on a le même rendez-vous. Alors tout le monde est prévenu. Vous aurez certainement, ceux qui ne connaissent pas viennent au moins par curiosité parce que c'est entendre ce qu'on entend. La dernière fois on a entendu gloire à Satan. Donc ceci pour montrer que c'est un combat eschatologique. C'est Dieu contre Satan. Je pense que c'est, évidemment, nous ne sommes pas Dieu, eux ne sont pas Satan, c'est certain, mais nous, on a choisi notre camp, personne n'est parfait, bien entendu, nous prions pour eux, nous prions pour nous, c'est ce que nous faisons véritablement, et il y a un moment toujours de surprise, on se met à genoux au moment des mystères douloureux, et il nous est arrivé d'entendre, notamment à Versailles, au Chénet, enfin, de surprise, ils sont très étonnés, les blasphèmes redoublent, alors vous savez qu'on nous a reproché vivement ces blasphèmes, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, on dit, mais comment, qu'est-ce que vous faites, vous priez, vous voyez bien, vous déclenchez les blasphèmes, vous n'avez pas le droit de faire ça, les catholiques pratiquants. Alors on leur dit, mais nous avons des références, c'est-à-dire que notre Seigneur, quand il est mort sur le Golgotha, eh bien il était sur une croix et des gens passaient, c'est une place publique, comme quoi il faut que nous ayons tous dans la rue, tous, les choses se passeront dans la rue, tout changera lorsque les chrétiens seront dans la rue et prieront dans la rue. Eh bien, on disait à notre Seigneur, descends de la croix, si tu es Dieu, si tu es puissant, tu peux le faire. Ça c'était le pire des blasphèmes. Alors voilà, je crois que la vérité est nécessairement provocante. Celle-là, elle est douce puisque nous ne sommes pas violents. De l'autre côté, c'est la violence puisqu'il y a il y a des millions de morts. Et puis rendez-vous le 23 janvier. Alors plus tard, ce sera donc d'abord le 11 décembre puis ensuite le 23 janvier. Là, il faut qu'on soit non pas nombreux mais très 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 nombreux puisque vous savez que c'est là que nous célébrerons le 30e anniversaire de la veille qui nous a valu, moi je pense, au moins 15 millions de morts. C'est une chose, nous ne mesurons pas ce que nous avons fait. Nous ne le mesurons pas. Même les évêques, hélas.
Vous avez vu, vous verrez dans le prochain numéro du Libre Journal, d'ailleurs, il y a un article qui parle des confidences de Simone Veil à propos du vote de la loi sur l'avortement, où elle explique une chose. Alors là, j'étais abasourdi quand j'ai lu ça, et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie vont être surpris de l'apprendre aussi. Elle souligne le rôle absolument déterminant de Poniatowski dans cette affaire. C'est Poniatowski qui l'a poussé à faire ça.
Est-ce qu'il était franc-maçon, Poniatowski?
Je ne fréquente pas ces gens-là. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Non, j'en sais rien. Il n'a pas besoin d'être franc-maçon, mais je veux dire que j'étais stupéfait d'apprendre ça. Alors, il a poussé à l'avortement. Ensuite, c'est lui qui a quand même été l'inspirateur du regroupement familial. Et puis 20 ans plus tard, il s'est dit, mais j'ai complètement, passez-moi l'expression, j'ai complètement déconné. Alors, à ce moment-là, il a commencé à dire, oui, Le Pen a de bonnes idées, mais il ne va pas assez loin. C'est quand même extraordinaire. Ce type, ils allument le feu. Et quand il y a l'incendie partout, les pompiers ne sont pas brillants dans l'histoire. Hein.
Il y a quelques années, M. Poniatowski était reçu à cette même table dans une émission très célèbre. Il est venu faire amende honorable.
Alors.
Il faut écouter Radio Courtoisie.
Je ne suis pas un fonctionnaire. Moi, je ne peux pas écouter vous non plus.
Poniatowski, c'était l'âme damnée de Giscard. C'est Giscard derrière, ce n'est pas autre chose.
Il avait fait le tour des loges, Giscard.
On a dit tellement de mal de Giscard qu'on va changer un petit peu.
Ah bon?
Tout ce qui est mort, donc on peut y aller. C'est pas peine de gêner.
Ah oui.
Danger. Tandis que Giscard, on sait pas, il peut être méchant encore.
Est-ce qu'il est encore vivant?
Enfin, toute la gauche a voté, sauf, vous savez, Zuccarelli, le député de Bastia.
Ah, parce qu'il
n'était pas là. Je ne sais pas très bien où il était. Toute la gauche. Alors, je dirais, ça, c'est à mon avis, leurs mains sont tachées de sang. Et moi, je pense aussi à Badinter, là, en 1981, lorsque il a fait voter avec des trémolos l'abolition de la peine de mort pour les coupables. Et il consacre dans son livre, parce qu'il a été le grand avocat de cette cause-là, mais juste, il y a une demi-page, ma femme m'a lu le passage, il y a juste de quoi parler de l'avortement, ça n'a rien à voir, c'est la liberté des femmes et tout ça. C'est-à-dire, il a fait une hécatombe d'un côté. Alors, c'est extraordinaire parce que, évidemment, on abolit la peine de mort pour les coupables et bien sûr, on la réserve aux innocents. Si c'est pas cette tête en bas, moi je pense que tout passe finalement par la déstructuration mentale. Enfin, on fait une chose, et c'est l'inversion du décalogue, c'est l'inversion du langage. On est en pleine folie, c'est-à-dire en pleine schizophrénie. La neige est noire. Voilà. Alors, on tue nos enfants, la neige est noire, allons-y. Alors, il faut le dire une fois, deux fois, la neige est toujours noire, encore noire. On va finir par le croire, parce qu'après, on va se croire bête de ne pas le croire nous-mêmes, n'est-ce pas? 2 plus 2 égale 5. Ça. On est en pleine folie.
Voilà. C'est intéressant, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est un constat qu'on peut faire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Sans arrêt.
Là, il y a une information qui est sortie dans Le Parisien, qui est quelque chose de totalement ahurissant. Il y a un type qui faisait des photos, enfin qui était arrêté pour pédomanie. Et alors, quand il était arrêté, on a en même temps constaté que parmi les utilisateurs de ses services, sa clientèle ou ses fournisseurs, j'ai pas bien compris, il y avait un jeune pseudo-chanteur qui participait à l'émission Star Academy. Et alors, on a interrogé ces gens-là. Alors, parmi ces clients, il y a le fils d'un ministre, il y a des vedettes de très grande réputation. Il y a notamment une des madones de la pop musique, explique Le Parisien, je vois pas très bien qui ça peut être, une madone de la pop musique qui viendra en France de temps en temps. Je vois pas. En tout cas, on a interrogé donc les gens qui étaient ses clients, après leur avoir indiqué qu'ils ne risquaient rien puisqu'ils n'achetaient à ce personnage qui faisait du trafic de drogue, il n'était que ses clients, ils n'achetaient que pour leur consommation personnelle, donc ils ne risquent rien. Et ils ont répondu, mais attendez, on peut pas nous en vouloir. C'était le fournisseur officiel des plateaux télé. Donc je signale aux auditeurs qu'il y a donc des fournisseurs de cocaïne, fournisseurs officiels des plateaux de la télévision. Je pense qu'ils doivent se faire des cartes de visite avec « By appointment of His Majesty the TV ».
Mais ça fait 5 ans que tout le monde le connaît et je comprends pas pourquoi ça sort aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi ça sort maintenant.
Comment il s'appelle ? Eric
Je ne sais plus.
Neuronique, je sais pas quoi. Enfin voilà, donc... Si vous voulez acheter de la drogue, c'est pas la peine d'aller perdre votre temps dans les quartiers pourris
du Stalingrad.
Vous allez à Stalingrad, vous allez à la télé, vous dites le fournisseur officiel est là, oui, deuxième porte à gauche. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, de la bonne, de la mauvaise, de la blanche,
de la brune. Il y a que de la bonne.
Il y a que de la bonne, voilà. Et je pense qu'un jour, il va falloir quand même traiter tout ça au lance-flammes.
Il n'y a pas d'autre solution.
Voilà, merci, cher docteur.
Merci à vous.
On a des petits messages pour le docteur.
Oui, faites donc ça.
Il faut quand même rappeler, en ce qui concerne la drogue, ce que ça peut rapporter.
Oui.
Parce qu'à un moment, j'étais un peu un spécialiste, parce que j'avais fait la Colombian Connection, et j'ai fait la Thaïlande Connection pour Paris Match. Le kilo de drogue acheté en Thaïlande, est ici, il rajoute dedans 10 kilos, pour un kilo de drogue, il rajoute dedans 10 kilos d'une substance neutre, totalement neutre, qui ne ressemble à rien. Ça fait donc que prix qu'ils payent le kilo là-bas, ils en ont 11 kilos. Ils pourraient rajouter 9 kilos pour faire 10 kilos. Non, non. Le change, c'est 1 kilo d'héroïne pure avec 10 kilos d'un mélange neutre. Et ça, c'était vendu 880 francs ou 100 francs ou 1000 balles, ce petit truc où il y a
un gramme.
Donc ça rapporte des fortunes.
Et que fait 50 millions de consommateurs?
Oui. Je suis tout à fait d'accord pour mettre de la lessive, par exemple. Ça peut guérir assez rapidement.
Mais ce genre de truc, donc, tu ne les tueras pas, ça continuera. C'est le pactole assuré.
Et puis pendant les campagnes électorales, on en a besoin. Hein. Ça va par valise entière, le pognon.
Il faut tenir.
Lorsque j'avais fait j'avais été dans les prisons en Thaïlande. Je suis un des très très rares reporters européens français, en l'occurrence à l'époque, à être rentré dans les prisons. J'ai vu des gars qui étaient là. Et il y avait un jeune français assez sportif, dynamique, qui était là, et qui avait été arrêté avec 10 kilos de drogue. Hein, et je lui dis, mais tu vas passer à la casserole, parce que les Thaïlandais, à ce moment-là, fusillaient. Ils tuaient les gens dans la cour d'une prison, ils les fusillaient à la mitrailleuse, hein. Et un par un, c'était pas bon. Ils mettaient tout un dispositif qui était mis. Les trafiquants étaient tués à la mitrailleuse. Eh bien, il me m'a dit non, je risque rien. Ah bon, pourquoi tu risques rien? Parce que ma mère est rentrée, elle en avait rentré 30 kilos, elle est passée, et mon père est rentré avec 40 kilos, il est passé. Donc, il y aura assez de pognon pour me racheter.
Eh ben voilà.
Belle famille. C'est une vieille tradition du petit commerce français.
Ouais.
Maison créée en 1889. Un siècle et demi de service. Sixième génération de trafiquants de drogue.
Bah, y a plein de monde.
Allez, voilà. Les questions au docteur.
Non, c'est pas seulement au docteur. D'abord, d'accord avec Serge de Beckett. Quoi qu'on puisse penser de George Bush, sa prochaine réélection est une bonne chose. Quelqu'un qui a contre lui la quasi-totalité des médias français ne peut pas être foncièrement mauvais. Il y avait qu'à voir ce
c'est
matin
c'est l'évidence avec
qui
j'ai fini par me rendre.
La mine déconfite des journaleux de France 2 et d'Anal Plus pour s'en convaincre. Un fidèle auditeur d'Anse.
En plus, il faut dire qu'ils sont pas très malins, parce que moi, ça fait à peu près 3 mois que je dis que la question se pose même pas, Bush sera réélu. Enfin, c'était tellement évident.
L'Église catholique.
Il a été élu par fraude, il peut bien être réélu par le même modèle.
L'Église. Je la place mon église catholique. Une auditrice nous dit « L'église catholique s'est enfin réveillée pour la Toussaint. Je suis d'accord avec le docteur Dor. Il faut encore soutenir les initiatives du clergé, processions, théâtres, etc. »
Mais tout le monde est d'accord.
Et une auditrice, non.
Ah bon.
Une auditrice dit « Pourquoi Mgr Lustiger a-t-il fait une manif pour la Toussaint ?» C'est parce qu'il a peur des évangélistes qui sont très militants.
Mais c'est une émulation, c'est parfait.
Alors là, nos auditeurs ont aussi mauvais esprit. Une auditrice dit, il y a des milliers d'enfants qui meurent de faim et de maladies. Le docteur Dor ferait mieux de les soigner. Il en sauverait plus que des enfants à naître.
Alors, je peux dire quand même un mot. Je suis resté 6 ans en Afrique noire. Et j'ai, à Abidjan, j'étais pédiatre. J'ai eu donc beaucoup d'enfants. Et alors, vous allez voir, ils mouraient, non pas de faim, c'est très étonnant, mais ils mouraient de maladies, particulier qu'on appelle le kwashiorkor, ce qui est une malnutrition protidique, c'est-à-dire qu'ils avaient de quoi manger, ils mangeaient à leur faim, c'est-à-dire qu'ils étaient, quand ils naissaient, ils étaient nourris au sein, ça allait bien, la mère le gardait un an et demi au sein, en Afrique c'est spécial, mais après, alors il était mis à la banane foutou, il était mis au manioc, et il prenait que ça. Même si le père était pêcheur, il ne prenait pas de poisson parce que c'était dangereux pour lui, enfin, si vous voulez, je me suis rendu compte, donc j'ai vécu assez longtemps en Afrique pour me rendre compte que l'Afrique n'est pas le continent de la faim, mais le continent de l'ignorance. Tenez-vous bien, ces maladies dites kwashiorkor ou malnutrition protique sont si graves que c'était la cause principale de mortalité dans le service. Et il y avait 1 mort sur 3.
Mais vous savez qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a eu une émission de télévision où on avait interrogé un spécialiste, un Africain, sur sur le cannibalisme en Afrique. Et on lui avait dit, mais comment expliquez-vous qu'il y
ait les protéines.
Il avait répondu, manque de protéines.
Ah oui. Oh, les protéines, il y en a. Hein. Il y a des poissons, il y a des œufs, il y a tout ça.
Apparemment, il préfère.
Il y a des serpents, il y a tout ce qu'on veut.
Oh,
des protéines végétales. Voilà. Ah non.
Et puis, c'est pour vous, Serge, là. Halloween en anglais veut dire veille de tous. Donc, c'est stupide, vous avez raison, de dire Halloween. Et pour la Pentecôte, ne serait-il pas plus judicieux de stopper le remboursement de l'avortement pour nous rendre le lundi de Pentecôte, le remettre à sa place?
Au lieu d'aller sans arrêt embêter les francs-maçons,
devriez
aller devant chez Raffarin.
Si c'est pour ces pèlerinages de Pentecôte.
On demande aussi au docteur si Mgr Lustiger est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe.
Ah, ça je ne sais pas. Non, ça j'ai peur que les évêques fassent la passe trop belle à l'islam, puisqu'ils admettent la laïcité, donc la relativité finalement. Enfin, ça c'est atroce.
C'est un débat qui sera vite tranché. Ça.
Oh, ça c'est horrible, parce que le Dieu des musulmans n'est pas celui des chrétiens. Le Dieu des musulmans c'est celui de Mahomet, c'est-à-dire la djihad, c'est-à-dire la.
Attention, là, vous êtes sur une pente savonneuse qui va vous faire glisser, je dirais, jusqu'à la 17e chambre.
Non, la polygamie et tout ça. Non, le Dieu, c'est pas le même. Enfin, Dieu est Dieu, bien entendu, mais notre Dieu, à nous, est parfait. Il est saint, il est unique, il est véritable.
Je vous sentais partir sur des considérations sociologiques qui nous auraient emmenés.
C'est-à-dire la femme est.
On aurait ramené au palais de justice dans le sort, alors on tient pour y retourner.
Je pense que l'islam est une régression, c'est certain. C'est certain.
Bon, parlons d'autre chose.
Plusieurs auditeurs vous demandent qui était ADG. C'est un auteur de romans.
Un auteur, d'abord c'était un journaliste de chez nous, il a été journaliste à Minute, il a été au Libre Journal, il a été secrétaire général de la rédaction de Rivarol, de Camille Gallic, il a été dans tous les bons endroits.
Il a même fait un article dans Fidélitaire.
C'est vrai. C'est un romancier. Il a écrit des romans policiers nombreux.
Et surtout un brave type.
C'était surtout un ami, oui, plus que ça. Il a écrit des romans policiers dont des films ont été tirés. Par exemple, Lautner a tiré d'un de ses romans Quelques messieurs trop tranquilles.
Et moi j'ai vu elle.
Il a fait Grand Sud, il a fait Chéri Bibi pour la télévision.
À la télé, il avait fait aussi, c'était pour sauver Pépère. C'était un très très bon film.
Pour venger Pépère. Ouais. C'était une très belle histoire. Et puis récemment, il avait écrit un très beau livre qui s'appelait Kangaroo Road Movie, qui était une histoire qui se passe le long de la barrière. La barrière à lapins en Australie, qui était passionné par l'Australie. Il a vécu en Nouvelle-Calédonie, grâce à moi d'ailleurs, parce que. Pendant 10 ans, grâce à moi, parce que je devais partir en Nouvelle-Calédonie, et puis j'ai pas eu envie. Ou plus exactement, pour vous dire toute la vérité, j'avais pas du tout envie de passer 25 heures en avion. Donc j'ai dit à Alain, va donc à ma place. Il est parti, il a trouvé une femme là-bas, et il a créé un journal qui s'est installé là-bas.
Il s'est battu sérieusement pour la Nouvelle-Calédonie française. On peut ajouter, si vous êtes d'accord, quand même, que son dernier livre a eu beaucoup de succès, que c'est bien qu'avant qu'il soit parti, on en ait reparlé dans des journaux comme Le Figaro, etc. Parce qu'évidemment, vu son école de pensée politique, il était un peu de temps en temps à la marge.
Il y a même un papier plutôt gentil pour lui, pas pour nous, mais gentil pour lui dans Libération.
On peut pas nier le talent quand même.
Il était redevenu fréquentable.
Ce matin, à la radio, ils ont dit que c'était un très bon auteur de romans policiers, mais qu'il avait beaucoup d'attaches avec l'extrême droite. C'est quand même proprement honteux.
C'est terrifiant, c'est ça.
Moi, quand je lis un bouquin, les amis me disent, mais qu'est-ce que tu penses de ce bouquin? Je dis, il est très bien. Mais c'est un coco qu'il a écrit. Mais je m'en fous, le bouquin est bien. Eh bien, eux, c'est pas du tout le cas. Eux, ça n'est pas du tout le cas, quoi.
Bien. Je signale d'ailleurs que, pour vous dire à quel point il était marqué à l'extrême droite, son fils, qui est mon filleul, s'appelle Jean-Marie. Il n'est pas d'extrême droite. Il paraît que l'extrême droite n'a pas cessé de combattre Le Pen. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit. Donc c'est bien la preuve que, contrairement à certains bruits, ADG n'était pas d'extrême droite.
Un auditeur vous dit...
Ça, c'est il aurait appelé son fils Adolphe.
Philippe. Alors, Michel Poniatowski a toujours nié être l'inspirateur du regroupement familial chez Jean Ferré, il y a une dizaine d'années. Il déclarait que c'était M. Stoléru qui l'avait imposé à VGR.
Ça balance dur, hein.
Ça balance. C'est tout pour les messages pour le moment.
Bien, c'est tout.
Oui, pour le moment.
On passe à autre chose. Je vais demander au docteur Dor de laisser la place au docteur Planté. Et au docteur Planté, si vous voulez vous donner la peine d'entrer, vous êtes le bienvenu. Et maintenant, je reçois. Merci. Au revoir, docteur. À bientôt. Enfin, je dis au revoir et bonjour. Je prends avec trop de docteurs. Ici, c'est une émission, il y a sans arrêt des docteurs et des curés.
En bonne santé.
Mais en fait, voilà, ça va.
J'ai cru que c'était le père Argouache qui entrait tout à l'heure. Monsieur l'abbé Cellier, bonsoir. Alors, vous êtes venu ici plusieurs fois. Parce que vous savez ce qu'il fait, il faut quand même que je le dise. Il me prépare des prompteurs à la vaisselle pour que je me trompe, je n'oublie pas un sujet. Il a préparé des petits papiers, il me les sort comme ça. Mais alors, parle-moi de ça. Bon.
C'est pas donc, l'émission de Stéphane Bern, hein. on a besoin de ça.
Oui, non, je peux arriver à improviser 2-3 minutes. Oui, vous êtes venu plusieurs fois pour nous parler de votre église, l'église Sainte-Thérèse.
Voilà.
Que vous restaurez à grand frais.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, disons, l'histoire, c'est une église que nous avons achetée à Compiègne, à la mairie, et que nous sommes en train de rénover actuellement, avec des travaux qui avancent à grande vitesse. En particulier, j'y suis donc passé dimanche, l'entrée pratiquement, qui était le gros morceau, parce que c'était l'endroit qui se rattaché à l'ancien hospice qui était détruit, donc est pratiquement achevé. Le narthex, les caves, l'appartement du prêtre, ça c'est très important évidemment, oui. Qu'il soit
le garage pour la voiture du prêtre.
Il y a un garage pour la voiture du prêtre, il y a tout ce qu'il faut. Et donc dans deux semaines environ, le bâtiment sera livré au peintre. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans la finition des travaux. Et le peintre va travailler pendant un mois pour peindre tout l'intérieur, pendant que on finira le ravalement extérieur. Et donc, ça nous sera livré le 20 janvier pour une reprise du culte et une inauguration. Donc, j'en avertis tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui suivent cette histoire. Donc, nous ferons ça le dimanche 16 janvier. Où nous célébrerons la première grand-messe à 10h, et tous les auditeurs qui suivent ça sont invités donc à l'église Sainte-Thérèse à Compiègne pour cette inauguration. Nous aurons donc une messe en grande pompe et en grand tralala.
Alors quel jour est-ce ? Parce que je vous écoutais d'une oreille non pas distraite, mais en même temps j'avais l'œil qui se portait sur un dessin que notre ami Miège vient de nous envoyer, qui est un joli dessin en hommage à ADG. Ouais. Voilà. Qui est intitulé fort justement La série noire continue.
Voilà, ça c'est
On aurait dû y penser.
Voilà. Donc effectivement, c'est le 16 janvier à 10h que nous inaugurerons. Et je voudrais, pour tous ceux qui nous suivent depuis que nous avons commencé cela, noter la continuité qui se passera ce jour-là, la continuité avec le but pour lequel cette église a été créée et construite. Les ouvriers ont retrouvé dans les débris de l'ancien hospice, qui se trouvait devant notre porche, où il y avait beaucoup de débris qui étaient restés.
C'est une porche, là,
voilà.
Garage.
Non, c'est une...
Ah, le porche de l'église.
Le porche de l'église. Ils ont retrouvé une pierre sculptée d'une vierge à l'enfant, qui nous ont sorti, et qui était probablement sur l'ancienne entrée qui menait à l'église, et que nous avons inséré dans notre entrée actuelle pour bien montrer cette continuité. Et d'autre part, lorsque donc le 16 janvier nous célébrerons cette première grand-messe, elle sera célébrée avec un missel d'autel que j'ai trouvé dans l'église avant le début des travaux, un missel d'autel de 1958, donc un missel d'autel traditionnel. Et donc nous reprendrons cette messe qui a été célébrée pendant de très longues années dans cette église, et nous continuerons cette tradition. Donc je crois que c'est important de montrer...
16 janvier, Compiègne.
7 janvier à 10h. 16 janvier, ouais. Voilà.
Il faut organiser des autocars pour aller là-bas.
Je l'espère, on va essayer de le dire. Alors je voudrais remercier tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous ont déjà aidés, notamment des gens qui m'ont fait des dons anonymes en espèces, par exemple, que je ne sais pas qui c'est, qui m'ont fait parvenir des enveloppes anonymes. Et donc je voudrais vraiment les en remercier, puis tous ceux qui prient parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment d'argent pour nous aider, et c'est très important parce que ça nous aide bien. Donc je remercie tous ceux qui nous ont déjà aidés, mais en même temps, bien sûr, évidemment, plus les travaux avancent, plus nous sommes heureux, puisque cette église vraiment prend forme, mais plus, en même temps, plus les factures tombent sur nous, donc plus nous avons besoin d'aide. Donc je lance un nouvel appel à l'aide pour vraiment nous aider à finir de payer ces travaux. Nous avons vraiment, réellement besoin de cette aide, et je crois quand même qu'un clocher qui va revivre, qui depuis une dizaine d'années à peu près était hors course, il était abandonné, qui va revivre, et bien c'est vraiment cette France, cette chrétienté qui reprenne, qui continue. C'est également l'islam et la dissociation, la dissolution de notre pays qui, sur un point de notre pays, est arrêtée. Donc je crois que si vous pouvez nous aider, ça sera vraiment une chose importante, nous aider à faire revivre cette église Sainte-Thérèse. Donc on peut, je donne l'adresse, oui. Donc on peut nous envoyer des dons à Église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202 Compiègne. 60-202 Compiègne. Église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, 60-202 Compiègne. Et les chèques sont à rédiger à l'ordre de l'Église Sainte-Thérèse, tout simplement, à l'ordre de l'Église Sainte-Thérèse. Et bien entendu, vous recevrez un reçu fiscal, voilà, un premier don qui vient de m'arriver, un don anonyme.
C'est un gift anonyme qui vient de tomber sur la table.
Et donc j'en remercie anonymement le donateur, qui est à ma gauche. Et donc,
C'est la première fois qu'il est à la gauche.
Et donc, ceux qui enverront donc des chèques pourront recevoir un refus fiscal, ce qui leur permettra de payer moins d'impôts. Donc, à la fois, ils nous aident et en même temps, ils donnent moins d'impôts à l'État, ce qui est une bonne chose. Et ceux qui voudraient donner des dons anonymes en espèces, eh bien, peuvent les déposer à la librairie France Livre, à mon intention. Voilà, une enveloppe, c'est ce qui est arrivé l'autre fois, une enveloppe qui a été déposée à la librairie France Livre pour l'église Sainte-Thérèse. Donc, je remercie tous ceux qui voudront aider l'église. Nous sommes vraiment dans les dernières semaines des travaux, donc nous avons spécialement besoin d'aide.
Alors vous êtes conducteur de travaux, non, c'est pas comme ça qu'on appelle, comment on appelle ça,
maître d'œuvre,
et également vous êtes éditeur de la
revue Fidélitaire. Donc effectivement, le dernier numéro de la revue Fidélitaire vient de sortir il y a tout récemment, donc c'est le numéro 162 de novembre 2004, et son combat principal, il vient juste de sortir, j'allais m'adresser au docteur Dor, mais il a été remplacé par le docteur Planté.
Le docteur Planté aussi, il fait partie de ces combats.
Voilà. Et donc, le dossier que nous avons consacré, évidemment, à l'occasion du 30e anniversaire de la loi Veil, s'intitule « Combat pour la vie ». Alors, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'un dossier théorique, académique, spéculatif, pour dire « Ah oui, l'avortement, c'est pas tellement bien ». On est tous d'accord sur ce point-là. C'est vraiment un dossier pratique. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui peut se faire pratiquement pour faire reculer la culture de mort ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre pays pour agir contre la culture de mort ? Alors nous avons cherché des exemples d'actions qui ont pu réussir. Alors nous avons des exemples au Portugal, nous avons des exemples en Argentine, nous avons des exemples aux USA, et évidemment nous avons voulu donner un exemple en France. Bon, nous avons donné l'ensemble des associations qui luttent, chacune avec leur spécificité. Nous ne sommes pas d'accord avec toutes, mais enfin toutes mènent un certain combat contre l'avortement, et nous avons promu d'une façon particulière SOS Maman de Monsieur Vermeuling. C'est un monsieur que j'ai découvert au micro de cette émission en l'écoutant, et ça m'a vraiment beaucoup touché. Ouais, j'ai trouvé que ce qu'il fait est vraiment formidable, et je crois que ce que nous avons voulu dire, c'est tout simplement les derniers mots de Monsieur Vermeuling, qui sont le dernier article du dossier, où il nous dit: nous rêvons d'un pays, d'une Europe où il y aura peut-être encore des lois d'avortement, mais plus d'avortement grâce à la simple charité des chrétiens. Et donc je crois que c'est ça que nous avons voulu dire dans ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ? Et il le dit aussi, il ne s'agit pas de spéculer, il ne s'agit pas de dire « Ah, faudrait, tiens, si on faisait ça ». Non, faisons quelque chose, et il nous donne vraiment des exemples.
Ce qu'ils font en question à ce moment, c'est
formidable. C'est époustouflant, c'est efficace.
Et c'est vraiment... Mais c'est le plus dur, puis c'est sur le terrain, et voilà. C'est une efficacité immédiate. C'est-à-dire, ils prennent une jeune femme ou une jeune fille qui est enceinte, ils vont la voir, il y a des jeunes femmes qui vont la voir, qui lui disent « Voilà, si vous... Il faut pas aller jusqu'au bout du désespoir. Vous pouvez sauver votre enfant, vous pouvez vous sauver. On va vous prendre en charge et on va vous aider. On va vous trouver un logement, on va vous trouver de l'argent, on va vous trouver un boulot, on va vous soustraire dans certains cas
aux mauvaises influences,
à la terreur, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont prises en main par des proxénètes, vraiment des assassins, des gangsters de la pire espèce. Et ces femmes qui travaillent avec Vinny, et puis Vinny lui-même, n'hésitent pas à payer de leur personne. Elles vont enlever, en quelque sorte, soustraire ces jeunes femmes à leur milieu. Ils les cachent, ils les mettent à l'abri en province, ils payent des voyages et tout. C'est un boulot formidable.
Voilà. Et donc, c'est vraiment l'esprit de notre dossier. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique ? Donc, il y a des exemples dans d'autres pays pour dire pourquoi ce qui marche dans d'autres pays ne marcherait-il pas dans notre pays ? Tout le monde est un peu démoralisé en disant « il n'y a plus rien à faire » et nous voulons montrer par ce dossier qu'il y a des choses à faire et que ces choses peuvent marcher et marchent effectivement.
Alors l'article de Vinny, c'est un
cas.
En quelque sorte le journal de marche de l'association à partir du cas d'une petite fille qui a été sauvée, qui a été sauvée de la mort et qui, dans des conditions, ça mériterait des... Voilà, tiens, s'il y avait une télé en France... Ouais, on peut raconter des aventures qui soient autre chose que l'histoire de flics misérables. Voilà. Là, c'est une très belle histoire.
C'est une très belle histoire qui est très bien racontée. Courage, je crois que c'est vraiment enthousiasmant. Et on se dit, voilà, là, il y a quelque chose à faire et quelque chose qui marche, qui réussit. Et donc, ne nous disons pas, il n'y a plus rien à faire, ne faisons rien. et ce qui est un petit peu, bon, bah, le, on se dit, bah, comme il n'y a plus rien à faire, ne faisons rien, comme ça on ne prend pas de risque.
Très bon numéro de Fidélité, c'est le 162.
162. On peut donc signaler quelques autres articles, des nouvelles bien sûr de la tradition dans sa vitalité, des documents sur les rapports avec Rome. Un joli et très amusant et instructif article écrit par les Carmélites sur l'arrivée des Carmélites en France en 1604, il y a donc 4 siècles. Et puis, un entretien avec François Villard, dont on va parler dans quelques instants. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que ce dossier, mais l'essentiel, évidemment, c'est ce dossier sur le combat pour la vie, un dossier pratique sur ce qu'on peut faire et ce qui est à faire immédiatement, et les choses changent quand on les fait.
Alors, c'est rappelons... Le temps, on peut s'abonner.
Voilà, donc rappelons, c'est le Fidélitaire numéro 162 de novembre. C'est, le numéro est à 7,50 € et l'abonnement découverte est à 33 €. Et on peut s'abonner à Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. Clovis, boîte postale 88-91-152 Étampes. Le numéro de téléphone, c'est le 01-69-78-30-23. 01-69-78-30-23. Ou bien on peut le trouver, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies, notamment la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement. Alors, j'ai apporté aussi... Ici, nos deux produits annuels bien connus, l'agenda 2005, qui est donc consacré cette année à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, avec donc des textes et des citations de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort pour accompagner l'année. L'agenda bien Clovis bien connu, que je remets solennellement à monsieur...
Il est complet, 365
voilà,
jours.
Voilà, 365 jours, sauf les années bissextiles. Voilà, et également, le calendrier 2005, qui est consacré aux missions catholiques au début du siècle, et je dois dire que c'est, disons le mot, délicieusement colonialiste, impérialiste, et légèrement triomphaliste. Et donc, nous avons de très belles illustrations des missions catholiques lorsqu'elles étaient fières d'elles-mêmes et lorsqu'elles répandaient la foi et en même temps la civilisation dans tous ces pays. Il faut quand même...
avoir une photo de la fête de Dieu à l'observatoire de Zikawei, Kiangshu, Chine.
Voilà.
C'est pareil. Maintenant, on a du mal à organiser une procession à Paris, mais à l'époque, on en faisait à Zikawei. Voilà, Madagascar, la Ravelante Mère, Saint-Léon, religieux de la Providence, qui est porté par 4... je le dis ou je le dis pas, personnages.
Voilà.
Personnages. Haut en couleur.
Africain.
Dans les 15 articles, la consécration de la mission des Oblats de Marie Immaculée au Sacré-Cœur. Ça, il y avait une série de papiers très jolis sur les Oblats de Marie dans présent, il y a un an à peu près.
Bah, c'est le père de la rue en faisait partie.
Voilà, c'est ça.
Du premier rêve, qui était un Oblat.
Et puis c'est eux qui sont allés chez les Inuits.
Le père Gislain.
Oui.
Le père Gislain était
un Oblat de Marie, bien sûr.
Bien sûr.
Le Dieu du ciel, il donne de temps en temps un petit exorcisme.
Oui, je pense qu'il doit nous. Il doit nous surveiller un petit peu. Il y a des photos aux Indes, il y a une photo dans les îles Salomon, une leçon de catéchisme, jolie photo d'un missionnaire barbu, bien entendu, assis devant une case avec deux élèves. Les autres ont été bouffés. Ils sont allés manger, c'est
voilà,
ce que je
veux
dire. Les îles Salomon. Il y a Mandalay en Birmanie, enterrement à la léproserie Saint-Jean. Très belle photo aussi. Non, c'est vraiment, c'est super, vous avez raison. C'est
voilà.
Très bon rappel. Délicieusement désuet et colonialiste.
Voilà. Donc c'est le.
D'urgence.
Voilà.
Le calendrier 2005. Mais si vous attendez la fin de l'année, à mon avis, ils vont le solder.
Voilà. Donc la fin de l'année.
2006.
2006, c'est quand même moins cher. Donc c'est le calendrier et l'agenda Clovis, évidemment, qui sont, comme tout chacun sait, annuels. Et puis alors, je finis avant que peut-être on parle de mes livres, éventuellement, moi ça. Je finis avec le livre de François Villard. Donc François Villard, il a déjà été reçu à ce micro pour son premier titre qui s'intitulait Le Corbeau de la Loue. Et depuis, il avait écrit deux autres livres, Croix en Laponie et Cabuc. Et là, il nous revient avec son quatrième qui est tout chaud puisqu'il m'est arrivé ce matin. Donc à mon avis, son chef-d'œuvre qui s'appelle Le Dernier Camisard. Je rappelle que François Villard écrit pour les grands adolescents, mais je pense que les adultes peuvent le lire avec beaucoup d'intérêt, en abordant des thèmes forts, la violence, l'amour, la religion, etc., dans un cadre romanesque et palpitant. On ne peut pas sortir du livre tellement on est emballé. C'est des gros livres, c'est des livres qui font entre 450 et 500 pages, et en même temps dans une visée vraiment chrétienne, à la fois large, c'est pas étroit, parce que c'est des adolescents, il faut quand même qu'ils se confrontent à un certain nombre de choses, mais en même temps sans concession avec l'esprit moderne décadent. Et là, dans ce livre, le dernier Camisard, que moi, chaque fois que je le lis et je le relis, je l'ai quand même lu un certain nombre de fois pour le préparer, c'est vraiment absolument absolument fantastique. D'abord, c'est dans un cadre mythique qui s'appelle les Cévennes. Et vraiment, l'auteur, donc François Villard, a fait un camp là-bas et il le décrit. On sent qu'il est complètement ébloui par ce pays. Une histoire qui est sauvage, qui s'appelle la révolte des Camisards, donc dont on fête le 300e anniversaire, hein, puisque ils ont la fin de la guerre des Camisards, c'est 1704. Un problème psychologique que tous ceux qui ont eu un peu d'autorité connaissent, c'est le problème du mauvais esprit dans un groupe, quand il commence à s'installer le mauvais esprit.
Alors là,
ça, la spirale du mauvais esprit, c'est très bien traité. C'est moi qui lui avais dit de traiter ça, parce que c'est vraiment un problème qu'on rencontre. Comment faire face quand on sent que rien ne marche, que les gens n'obéissent mal, ou traînent les pieds, etc.
Il faut demander aux sous-officiers de Légion, ils ont des remèdes souverains contre le mauvais esprit.
Voilà. Et en même temps, un problème théologique, puisque nous sommes dans le pays des Camisards, et que ces jeunes donc qui campent là et qui se promènent dans toutes les pays de Cévennes, sont confrontés à cette guerre des Camisards, et pourquoi est-ce qu'on persécutait les protestants, etc. Donc le problème de la liberté religieuse. Donc c'est vraiment, à mon avis, un mélange absolument détonnant, et un livre, on le prend, il fait plus de 500 pages, il fait 530 pages, mais à mon avis, on ne le lâche pas, pas à mon avis, par expérience, on ne lâche pas avant de l'avoir fini. Donc je crois que c'est un grand livre, et je recommande au patron de cette émission, à la personne de M. Beketch, d'inviter François Villard, qui a vraiment des choses passionnantes à dire, et vous pouvez le lire dans, comment dirais-je, dans son entretien, aider nos jeunes à voir plus clair dans leur vie. Il explique, et il, dans le 30e fidélitaire, où il explique qu'est-ce qu'il veut faire avec ses ouvrages, et comment est-ce qu'il essaye d'aborder des vrais problèmes, parce que souvent les parents ne les abordent pas avec leurs enfants, et que c'est une...
C'est non, mais c'est très bien ce qu'il fait. Ses bouquins sont excellents. Le Corbeau, c'était très bon. Le suivant...
Croix en Laponie.
J'avais pas gardé un souvenir très remarqué, mais Cabuc, c'est très bon aussi.
Voilà,
c'est un très bon écrivain. Il est en poste succédé, enfin d'ailleurs pas en poste, il succède en fait au grand du signe de piste.
Voilà, au grand du signe de piste, avec cette orientation plus chrétienne, et je trouve abordant des problèmes, des questions ou des problèmes qui se posent aux adolescents de façon, je dirais, plus directe, comme le veut l'époque, si je puis dire. Donc oui, le dernier Camisard. C'est donné un livre de 528 pages à 10,50 €. Je veux dire, on ruine Fidélitaire et Clovis avec ça.
C'est fini. Moi, j'étais en train de terminer un bouquin. De 10,50 €, je vais arrêter. C'est pas possible. Ça ne paye pas l'effort. Merci. Ah mais non, mais j'allais oublier. Vous croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça? Ah. Vous venez de publier un ouvrage. Non, parce qu'il y a un double titre, libéralisme et antilibéralisme. Moi, je croyais souhaitement que vous avez fait 2 livres, un pour les libéraux, un pour les antilibéraux, pour faire tourner l'édition. Mais non, c'est le même livre.
Voilà.
Et pour tout vous dire, je l'ai lu. Et je vais vous dire le fond de ma pensée.
Disait.
Par moment, je me suis demandé si c'était pas un livre de convention, de convenance.
De convenance.
De circonstances.
De circonstances.
Ouais. C'est-à-dire, étant donné la façon dont vous avez été pris à partie dans une querelle de chiffonniers à laquelle vous n'aviez absolument rien à faire d'ailleurs, me semble-t-il, parce que, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais je me suis dit, il y a des moments, je me suis demandé si vous n'aviez pas fait le bouquin pour dire, bon écoutez, alors calmons-nous, je ne suis pas plus gnostique que ma conscience, et je vais vous expliquer ma position sur le libéralisme, l'antilibéralisme et toutes ces choses-là.
Voilà, c'est effectivement, il y a une part d'écrit de circonstances, dans la mesure où c'est un livre que j'avais envie d'écrire, mais que je n'aurais pas peut-être écrit maintenant, parce que j'ai beaucoup de travail, et que de ce fait-là, j'aurais peut-être reporté encore, vous savez, quand on a beaucoup de travail, on se dit j'écrirai demain, etc. Donc, puisqu'il y avait une querelle, une polémique, une discussion, je me suis dit c'est le moment de l'écrire, mais c'est en même temps un livre que j'avais envie d'écrire, et qui est la suite d'un livre que j'ai écrit en 1986, qui s'appelait Essai bibliographique sur l'antilibéralisme catholique, qui était un livre plus technique, que j'aurais voulu reprendre à nouveau frais, mais la vie a fait que j'ai été très occupé tant à l'école Saint-Michel que maintenant aux éditions Clovis, donc j'ai pas pu le faire, et je me suis dit c'est un peu bête, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, j'avais continué à lire beaucoup et à beaucoup travailler, est-ce que je pourrais pas faire assez rapidement une introduction pour le grand public, simple, qui me demandera pas un travail énorme, et qui va permettre à ceux qui voudraient connaître ce patrimoine auquel je suis attaché de le connaître.
C'est vraiment indispensable ce bouquin. Enfin, c'est indispensable de faire le point sur le libéralisme et l'antilibéralisme, parce que là, on est en, une fois de plus englué dans une querelle de mots, parce que le libéralisme, c'est à l'heure actuelle, c'est bien vu, l'antilibéralisme, c'est pratiquement de l'hitlérisme, disons les choses clairement, et c'est pas mal d'expliquer un petit peu aux gens que le libéralisme, c'est pas exactement ce qu'on croit, et l'antilibéralisme non plus, dans le sens
religieux, chrétien, évidemment, c'est vraiment le libéralisme vu d'un point de vue de la foi et l'antilibéralisme, évidemment, l'école catholique antilibérale, c'est ça que le terme exact c'est, est là. Donc, effectivement, expliquer cela, que ça se distingue, même s'il y a des liens du libéralisme économique, que on est vraiment sur quelque chose de très précis. Et j'ai voulu faire un petit peu le point là-dessus et permettre aux lecteurs qui n'ont pas forcément toutes les notions nécessaires, etc., d'avoir un démarrage sur cette question sans prise de tête, parce que à la fois, je pense qu'il faut des choses simples. Ça s'appelle, c'est une petite collection qu'on a appelée, c'est le premier numéro d'une collection qu'on a appelée Lapidaire, donc quelque chose de rapide, quelque chose de simple. Et en même temps, j'avais pas le temps. C'est vrai que encore une fois, j'aurais peut-être attendu un ou deux ans avant l'écrire, mais j'avais en même temps envie de l'écrire. Donc ce n'est pas un livre que j'ai écrit contre mon gré. C'est vrai que c'était les circonstances donnaient l'occasion. Et or, vous le savez, vous êtes un journaliste, vous êtes un écrivain, vous savez que souvent c'est le moment, tac, on écrit, on aurait peut-être pas la grâce et l'envie de à un autre moment. Donc autant le faire maintenant, quoi.
Alors, pour pas que cette émission ait un caractère de réclame, quand même, je voudrais vous interroger sur un concurrent, parce que il y a une nouvelle maison d'édition qui vient de paraître, qui s'appelle les éditions du Zébu. Je sais pas si vous avez lu ce livre. Je pense que vous l'avez lu parce que ça doit vous intéresser. C'est un entretien avec Philippe Vilgier. Enfin, c'est donc Philippe Vilgier qui conduit un entretien avec Paul Cernine.
Je crois que c'était l'auteur d'un livre qui est paru il y a un an, c'est ça?
L'auteur d'un livre, oui, qui a fait, c'est assez rare la chose, bon, ça arrive, ça arrive à des gens comme Victor Hugo ou Balzac, qui écrivent des bouquins qui suscitent plus de glose que le bouquin lui-même. C'est-à-dire, vous avez un bouquin qui fait 180 pages et la glose fait 1800 pages. Alors, Victor Hugo, c'est pas étonnant, mais Cernine, je pense qu'il a été très surpris de découvrir que son petit bouquin provoquait plus de pages de commentaires qu'il en avait lui-même d'exposé.
Voilà, effectivement.
Alors, donc, vous avez lu ça, Paul Cernine?
Je l'ai lu, oui, je l'ai reçu comme vous.
Ça vous a convaincu ou pas?
Ça m'a intéressé, moi, vous savez, la question convaincu ou pas convaincu, je m'intéresse, je suis un esprit libre qui essaye de...
Tu glousses toujours, tu m'instruis.
Voilà, j'essaye de m'instruire. Donc, effectivement, c'est le point sur un certain nombre de critiques qui ont été faites à Paul Cernine, et je crois que tous les gens qui ont suivi, qui ne sont pas d'ailleurs immensément nombreux, hein. C'est une discussion qui tourne dans un certain nombre de cercles, mais le grand public s'en est pas passionné, mais tous ceux qui se sont intéressés à ça peuvent acquérir et lire cette brochure, je pense, elle est fort intéressante, et donc nous allons la mettre au catalogue, pas le catalogue qui va arriver dans quelques jours, parce que la brochure nous est arrivée trop tard, mais le catalogue de Noël, mais dès maintenant, puisque la brochure est maintenant arrivée, dès maintenant on peut le commander, même s'il n'est pas encore sur notre catalogue, il est à la librairie française, je suppose qu'il sera assez rapidement chez DPF et à la librairie du Ken. Tous ceux qui sont intéressés à ça, il fait le point, donc Paul Cernine fait le point un an après sur, je dirais, la querelle, donc en reprenant point par point un certain nombre d'oppositions ou d'objections. Et même, il dit, voilà, je me suis trompé sur tel point, donc je dis que j'ai fait une erreur.
On va faire un recensement en une dizaine de lignes de ce bouquin, comme ça permettra à Couvert de prendre connaissance du contenu, parce que il lit pas les textes originaux, lui, il lit plutôt les compilations, compilations compilées.
Voilà.
Donc je vais faire un petit résumé en trois lignes.
Un dessin coloré avec une petite légende en dessous. J'ai lu
ça y est, tout de suite, les légendes.
Voilà.
Pourquoi vous mettez une légende? C'est déjà assez difficile de comprendre.
Presque tout ce qui a été publié après le livre qui est remarquable.
De Cernine.
Enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens, c'est des grotesques. Hein, je veux pas être, sans être méchant, c'est des grotesques, quoi. On dit, mais pourquoi vous achetez
pas? Si vous essayez d'être méchant, qu'est-ce que vous allez dire?
Je vous le dis pas parce qu'il faudrait que je parle en russe ou en arabe à ce moment-là. Enfin, on a envie de leur dire, achetez-vous un petit dictionnaire à la russe, quoi. C'est insoutenable, quoi. Insoutenable.
Bon, docteur, vous me faites beaucoup de peine.
Je suis navré.
Nous avons la chance d'avoir de très grands esprits, très lumineux, très éclairés.
Vous savez, les éditions du Zébu, c'est des éditions qui étanchent la soif de connaître.
C'est ça, c'est le Zébu, soif. Bien, et ben voilà. Donc, ce qui devait être dit est dit. Le monde pourrait-il tourner sans monsieur l'abbé Cellier? C'est le problème, mais je pourrais tellement...
Je l'espère.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria?
Un auditeur demande, pouvez-vous donner l'adresse physique de l'église Sainte-Thérèse?
Ah, l'adresse physique, c'est au 85 rue du Bataillon de France. Au 85 rue du Bataillon de France. J'aurais aimé, juste à côté, il y a l'avenue de tous les diables. J'aurais aimé que... c'est la rue d'à côté, mais c'est au 85 rue du Bataillon de France.
Il y a qu'à écrire rue des diables prolongée.
À Compiègne, à Compiègne.
Qu'est-ce que c'est le...
60-200, Compiègne. Donc c'est pas très loin des quais, puisque ce lieu-là est un legs d'une veuve d'un industriel de la corderie. Et donc c'est à côté, puisque la corderie sert pour les bateaux, etc. Donc c'est un legs qui a été fait avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas loin des quais de l'Oise, tout simplement, puisque je rappelle que Compiègne est sur l'Oise.
Vous pouvez rappeler aussi où on envoie les chèques?
Ah, on va rappeler exactement où on envoie les chèques. Donc on envoie les chèques à Église Sainte-Thérèse, boîte postale 40-201, boîte postale 40-201, 60-202 Compiègne, Cedex. 60-202 Compiègne. Et les chèques, donc, sont à rédiger à l'ordre de l'Église Sainte-Thérèse.
Merci, monsieur l'abbé Cellier.
Si, attends, monsieur l'abbé, quel lien y a-t-il entre la Fraternité Saint-Pilice et l'Église Sainte-Thérèse?
Eh bien, un lien tout simple, c'est que l'Église Sainte-Thérèse a été achetée par la Fraternité Saint-Pilice. Donc, vous pouvez rédiger vos chèques, soit Église Sainte-Thérèse, soit Fraternité Saint-Pilice, si vous voulez, mais mettez Église Sainte-Thérèse, c'est le plus simple.
Et monsieur l'abbé, pourquoi ne pas faire demande officielle à monsieur Sarkozy de vous aider, lui qui est si généreux pour les mosquées?
Bon, ben
c'est un bon argument, parce que l'un des arguments utilisés par Sarkozy pour financer les mosquées, c'est de dire que les mosquées, l'État ayant pris les églises au moment de la séparation, en quelque sorte, il y avait une tradition, il y avait un patrimoine immobilier de l'église, etc., que les mosquées n'ont pas, parce qu'il n'y a pas de tradition islamiste en France. Mais on pourrait dire qu'il n'y a pas non plus de tradition dans la tradition,
voilà.
Parce que vous êtes né bien après,
après 1905.
Bien après 1905. Donc
effectivement, non, mais c'est vrai que moi je suis à Suresnes et je constate, donc la maison du district qui s'occupe de toutes ces choses-là, nous sommes dans une phase d'investissement colossal. Puisque nous achetons, nous rénovons pour que les fidèles aient l'accès à des lieux de culte. Et je dois dire quand même qu'il faut remercier l'ensemble des bienfaiteurs, des donateurs qui, avec une générosité héroïque, donnent les fonds nécessaires pour que ces églises, à droite, à gauche, puissent être achetées, rénovées. Et c'est vrai qu'on est en phase d'investissement à un niveau incroyable, parce que nous partons de rien. Tout simplement, nous sommes partis de quasi rien. Et qu'il faut donner à travers toute la France aux fidèles la possibilité d'avoir des églises à eux où ils puissent vivre. Et je dois dire que M. Marigny, le maire de Compiègne qui nous a vendu cette église, il faut reconnaître ce qui est, il l'a fait dans cet esprit-là. Il a fait que nous ayons un lieu de culte à nous où nous soyons tranquilles et, je dirais, dans de bonnes conditions. Et il faut quand même l'en remercier.
Merci, monsieur l'abbé, c'est tout. Vous avez d'autres questions?
Monsieur l'abbé Cellier, oui, mais...
Une question qui vient de Montréal, là.
Un auditeur de Montréal nous dit « L'Amérique est un pays où la liberté règne, contrairement à ce que raconte la presse française. Exemple, 11 États ont fait un référendum sur le mariage gay pendant les élections de Bush. Et les 11 États ont répondu non. En avez-vous entendu parler? Bien sûr que non. Ça pourrait donner des idées aux Français. » Cordialement, nous dit-il.
C'est vrai. Mon cher Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Cher docteur Planté, bonsoir. Alors, docteur Planté, je vous ai demandé de venir ce soir, pas comme médecin, enfin encore qu'on parlera peut-être, on évoquera un sujet.
Ça vaut la peine.
Hein. Oui, on va en parler, bien sûr. Mais avant, je voudrais dire que c'est eu égard à vos origines algéroises que je vous ai demandé de venir ce soir, puisque avec Roger, on va parler pendant quelques minutes de l'Algérie, le motif étant, même les auditeurs de moins de 30 ans l'auront compris, la célébration telle qu'elle est faite aujourd'hui en France de la Toussaint sanglante de 54, qui est le point de départ de de la guerre d'Algérie, officiellement en tout cas, et dont on a donné ces temps-ci sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, une version.
Cette fois-ci, ça dépasse tout ce qui est pensable. Parce que moi, je fais partie des gens qui se sont battus toujours pour le souvenir des soldats qui ont combattu en Algérie. Chaque fois, on montait au créneau, mais là, ça n'est plus possible. Devant un tel déferlement de toutes les télés, de toutes les radios, de toute la presse, avec l'emploi de mots qu'ils n'osaient jamais employer jusqu'à présent, la colonie française, enfin, tout ça est proprement honteux, scandaleux. Ne viennent parler de l'Algérie que des gens qui ont trahi. C'est exactement comme si pour parler de la résistance, il y avait des mecs qui ont collaboré avec les Boches qui venaient parler. Alors ça les emmerde quand on dit ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité des faits. Alors, c'était des braves gens, mais des braves gens qui n'étaient pas heureux. Mais enfin, nous, quand nous sommes arrivés là-bas, moi, en tant que soldat, quand je suis arrivé là-bas, je suis avec mes copains. On avait quand même des idées, parce qu'il paraît aussi qu'on n'avait pas d'idées, qu'on était des soulards. On pensait qu'à se saouler la gueule, on pensait à rien, on pensait qu'à violer, à tuer. Enfin, tout ça est proprement scandaleux et ridicule. Nous, quand nous sommes arrivés, eh bien, nous rentrions d'Indochine. C'est quand même l'Indochine, les soldats d'Indochine qui ont encadré les appelés qui sont venus en Algérie. Mais nous avons décidé que c'était fini. On était partis d'Indochine. On nous avait fait perdre en Indochine, eh bien, on ne partirait plus. Parce que là, il y avait l'Algérie et il y avait le Sahara derrière. Et l'Algérie et le Sahara, c'était l'avenir de la France, l'avenir de la jeunesse française et même l'avenir de l'Europe. Parce que si nous avions gardé l'Algérie et le Sahara, eh bien, l'immigration ne se serait pas passée de là-bas vers ici, mais d'Europe vers là-bas. Parce que ce que les Juifs ont fait dans le petit désert du Sinaï, on pouvait en faire 10 000 fois plus au Sahara pour la jeunesse de France et pour la jeunesse d'Europe. Mais tout ça, c'est totalement oublié. On était des bœufs, des abrutis, des connards. Enfin, il faut entendre un peu ce qu'ils racontent sur nous. Enfin, il faut quand même pas oublier qu'on parle du soulèvement de 1954. J'ai amené des photos, là. Voilà les photos. Les photos de ce qui s'est passé. Bon, moi, j'ai vu les types à El Yaldia, les gosses massacrés, des petits gamins, les femmes enceintes éventrées, les gosses cloués. Avec des pioches sur les portes. Enfin, c'est pas un type tout seul qui fait ça. Il faut qu'il y ait deux gars au moins qui tiennent le gosse et qu'un autre manie la pioche. Alors on vient de nous dire, oui, mais c'est du passé tout ça. Mais nous, on veut bien que ce soit du passé. Moi, je veux pas la guerre éternelle. Moi, je veux qu'on s'entende demain avec les Algériens. Ils sont indépendants. Enfin, on vient nous expliquer la dernière guerre civile qui a duré 8 ans en Algérie, là, on n'y est strictement pour rien. Alors, pour revenir au début de la chose, quand nous débarquons là-bas, nous trouvons un pays qui n'est pas mal, où les Français ont fait beaucoup de choses, mais il y a des problèmes d'administration. Mais tous les administrateurs, tous les gouverneurs généraux en Algérie étaient socialistes. C'était une chasse gardée socialiste. Si dans les Orestes et Mencha, les gars n'avaient vu personne depuis des années, comme dans certains coins, ben c'était pas de notre faute à nous. Nous, on a fait notre travail, on a fait notre boulot. Et là, ce qu'on vient parler des pieds noirs, mais enfin, là, au sujet des musulmans, j'ai la petite note là que j'ai faite. De fin 1954, c'est-à-dire au moment de l'insurrection, à 1956, le FLN avait déjà assassiné 4500 musulmans algériens, en grande majorité des anciens combattants. Et il y en avait 3000 qui avaient disparu, qu'on n'a jamais retrouvé. Germaine Tillion, qui était coco socialo, avait fait une grande étude qui a toujours fait force de loi dans les histoires d'Algérie. Elle dit, il y a en Algérie 19 400 colons, 7432 possèdent moins de 10 hectares, 12 000 sont de véritables grandes propriétés, 3 000 sont riches, une dizaine très riches. Sur près d'un million d'Européens, on peut dire que cela ne représente même pas la norme métropolitaine.
Bon.
Alors, on a raconté un certain nombre de choses, et maintenant, le fin du fin, c'est de faire dire aux Algériens que l'occupation, puisque maintenant c'est même plus la présence française, c'est l'occupation française en Algérie, c'est c'était pire hein, que l'occupation allemande en France. Mais enfin, lorsque les Allemands sont partis, il n'y a pas 5 millions de Français qui ont voulu partir s'installer en Algérie, en Allemagne. S'ils sont vraiment tellement malheureux, si on est vraiment tellement des salauds, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Qu'est-ce qu'ils foutent ici, là, dans France Soir d'hier? Il y a l'histoire d'un gars qui dit il était fait la gare. Voilà. Hein. Oui, c'est d'hier. Hein. Voilà, note. Je l'ai, là. Enfin, oh, je vais la trouver. J'étais un félaga, hein, un dénommé Hassan Kekai. Hein, j'étais félaga. Bon, ben le gars, il était félaga. Mais il est en France. Il est en France. Qu'est-ce qu'il fout ici s'il était félaga? Il dit, on n'arrêtait pas de m'arrêter. Il dit, j'ai été arrêté 10 fois alors que je ne faisais rien.
Je faisais partie
du FLN, hein, je ramassais de l'argent, je distribuais des tracts. Mais enfin, il ramassait de l'argent. On sait comment l'argent était ramassé. On sait quand même à Barbès ou ailleurs le nombre d'Algériens qui ne voulaient pas filer d'argent au FLN qui ont été assassinés. Alors moi, je veux bien qu'on tende la main à l'Algérie. D'abord, que ce soit ceux qui se sont battus. À qui on demande leur avis. C'est pas à ceux qui ont trahi de donner leur avis. C'est pas à ceux qui ont trahi de dire ce qu'il faut faire. Hein, nous, parmi les gens qui se sont battus, nous sommes un certain nombre à aimer tellement l'Algérie et à avoir laissé notre sang là-bas et beaucoup de copains pour dire, bon, ben c'est la paix, c'est la paix. Mais qu'ils commencent eux aussi. On n'a pas à demander pardon, parce que dans toutes les pages des journaux aujourd'hui, il faut demander pardon. Eh bien merde, moi je ne demanderai jamais pardon. Hein, c'est clair, net et précis. Hein, et nous n'avons pas à demander pardon. Alors, la pourriture est tellement installée dans notre malheureux pays que là, dans le Parisien d'hier, enfin du Parisien le 2 novembre, donc avant-hier, il y a une brave fille, son père était archi. Bon, mais cette fille donc est française, son père vit en France, elle vit en France, mais qu'est-ce qu'elle dit cette fille? Hein? Il avait choisi en 1956 de s'engager dans l'armée française, trahissant ainsi l'Algérie, qui n'était pas encore un pays. Parce que son père qui s'engage en 1956 dans l'armée française trahit l'Algérie. Voilà ce qu'on fait dire. Voilà ce qu'on fait dire à des fils, enfin là en l'occurrence, une fille de Harki. Et puis tout, j'ai pris le Parisien, mais François, c'est pareil. Tout est pareil, absolument pareil. Et hier soir, je suis tombé sur une émission à la télévision, bon, sur l'Algérie, hein, de M. Rotman et autres. Bon, eh bien, mais j'ai changé de chaîne immédiatement. J'en ai vu 2 secondes. Hein, c'était des sauts de merde, quoi. Ouais, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est pas poli, mais c'était des sauts de merde sur la France, sur notre armée, sur ce que nous avons fait. Hein. Alors, tous ces braves gens qui, un million de jeunes Français ont subi l'Algérie. On entend ça aussi, ils ont subi. Ils se réveillent la nuit parce que les félagas sont sous le lit. Ils peuvent plus dormir, ils sont torturés. Mais enfin, mais de qui on se fout? De qui se moque-t-on? Et parmi ces 1 million de mecs qui sont allés là-bas, tout le monde laisse dire, tout le monde laisse faire. C'est les cocos et les traîtres qui racontent leur histoire, qui racontent leur guerre d'Algérie. Mais dans tous les journaux, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pouvait se battre, parce que avec toutes les bonnes femmes qu'on violait, on passait notre vie à violer, enfin, mais c'est quand même honteux, c'est scandaleux. Ça ressemble à quoi tout ça, hein? Parce qu'enfin, la guerre d'Algérie, moi je l'ai fait dans des unités qui ont saigné, hein? Eh bien, de 1954 à 1962, nos troupes ont eu 17 456 tués, dont 5 966 par accident de la route. Hein? Voilà, c'est les chiffres officiels. De 1954 à 1962, nos troupes ont eu 17 456 tués, dont 5 966 par accident de la route. Sur ce total, il y a eu 6 059 appelés. Pour la seule année 62, les services compétents de la gendarmerie donnent pour la France métropolitaine le chiffre de 10 125 tués sur les routes. C'est clair, net et précis. Hein, tout ça, il y a quand même pas. Bon. En plus, on oublie quand même de dire une chose. Il y avait plus de musulmans dans l'armée française que dans le FLN, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Parce qu'il y avait des bandes armées, des katibas, en Algérie, mais le gros de l'armée du FLN était en Tunisie et au Maroc. Eh bien, il y avait plus d'Algériens, de musulmans dans l'armée française à cette époque qu'il n'y en avait dans le FLN.
Bon, je te donne de quoi te réconforter.
Oui.
Le 1er novembre 2004, Pierre Péan était invité sur Europe 1 chez El Kabach pour son livre « Main basse sur Alger ». Selon Péan, la venue des Français était uniquement motivée par le vol. Or, et tapis d'Alger. Bon, faut quand même savoir que c'est toutes les cours d'Europe qui avaient demandé à la France de remettre de l'ordre dans la Méditerranée. Bon, le même jour, Benjamin Stora...
Qu'est-ce qu'il a fait, Stora?
2000 ans d'histoire sur Inter a parlé de Constantine, passant sous silence que tous les couïds racontent, le 20 août 55, 171 Européens tués, dont un tiers d'enfants. Là, c'est quand même. Je te le lis, j'espère que tu ne vas pas t'évanouir, te trouver mal, mais on débloque sur l'Algérie, mais c'est la gauche qui contrôle tout. Gauche mise au pouvoir grâce au soutien de Le Pen.
Oui, mais c'est n'importe quoi.
Comme disait le docteur tout à l'heure, le docteur Dor.
Est-ce qu'on va leur répéter 45 000 fois que c'est Chirac et ses amis, ce sont Chirac et ses amis ça, qui ont fait voter Mitterrand et qui ont amené Mitterrand au pouvoir. Mais on l'a dit, on l'a écrit, que ce monsieur m'écrive, je lui enverrai tout ce qui est sorti des bouquins où c'est expliqué depuis longtemps. Mais en ce qui concerne aussi la guerre d'Algérie et les combats en Algérie, si Azdine, qui fut un chef du FLN, on lui a posé la question, l'armée française savait-elle s'adapter à votre combat? Et quelle réponse, si Azdine, le contingent qui se trouvait en Algérie, malgré lui, n'était pas trop motivé. Restaient les professionnels, les parachutistes et la Légion. Que l'on ne s'y trompe pas. Celui qui prétend que l'armée française se battait mal est un con. Franchement, c'est si Azdine qui dit ça. Mais même si c'est un compliment pour les unités qui se battaient contre eux, je tiens à dire une chose. C'est que la majorité des régiments parachutistes en Algérie, sauf la Légion, la majorité des régiments parachutistes en Algérie étaient à base d'appelés. Et les régiments qui se sont soulevés pour essayer de garder l'Algérie française et qui ont fait le putsch étaient des régiments d'appelés, avec quelques régiments de Légion, mais les autres régiments étaient des régiments d'appelés. Et il n'y avait pas que des régiments paras. Il y avait des régiments blindés, il y avait des gars aussi qui y croyaient. Les trois quarts des soldats que j'ai connus là-bas, eh bien, une grande majorité croyaient à ce qu'ils faisaient. Bon, il y avait des cons, des poivrons, des pédés, comme dans toutes les armées du monde, quand t'as un million de types sur le terrain, mais les gars croyaient à ce qu'ils faisaient. Ils croyaient à ce qu'ils faisaient. Bon, alors il y a beaucoup de gars d'ailleurs qui sont partis coco et qui au para sont devenus de bons soldats. Et c'est ça qu'on ne nous pardonne pas non plus. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils étaient disciplinés, et ils sentaient. Alors tu te rends compte un peu, c'était vraiment des salauds. Qu'est-ce qu'on faisait des enfants de la classe ouvrière? Les enfants de la classe ouvrière, on en faisait des gars qui tenaient la route et qui pensaient que l'avenir de la France ça n'était pas de tout brader. Voilà le résultat de l'histoire. Mais c'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui. Alors je pense quand même que c'est bien beau que moi je me suis battu, je suis pas pied noir, j'en ne regrette pas ce que j'ai fait pour l'Algérie française. Et je suis prêt à continuer. Mais je pense qu'il faudrait pas même que demain, parce que sans ça, ça ne va pas s'arrêter. Il faudrait quand même que tous les pieds noirs se réveillent. Il faudrait quand même que ceux qui ont fait la guerre d'Algérie honnêtement et correctement, avec courage, se réveillent aussi. Il faudrait bien quand même qu'ils en aient marre un jour d'entendre raconter leurs exploits graveleux par tout un tas de feignants, de bons à rien, de déserteurs. C'est quand même pas totalement incroyable. Eh bien, je pense que l'année qui vient sera celle de la vérité. On va mettre quelques mois pour mettre ça sur pied parce que c'est long. Nous sommes un peu comme nos amis curés. On est obligé de trouver le fric, on est obligé de se défendre, on est obligé de se battre. Mais il faut donner un coup d'arrêt. Il faut foutre un coup de pied dans cette fourmilière. Sans ça, on sera bouffé et nos copains seront vraiment tombés pour rien.
Merci, merci Roger.
Serge.
Il reste deux minutes, pardon. Je croyais qu'on était... Oui, alors, François Plantier, je voulais vous donner la parole en début de deuxième partie.
Je voulais juste dire que je vous ai demandé l'autorisation de passer un petit disque pour...
On va écouter cette musique, mais peut-être après la coupure. Là, je vous ai demandé de venir pour donner la version du jeune civil que vous étiez, qui vivait en Algérie. J'aimerais que vous évoquiez rapidement...
C'est difficile de... Pour moi, c'est extrêmement douloureux de parler, parce que, comme disait Roger, c'est... Dire que c'est un flot de merde, c'est bien en deçà de la vérité. En fait, moi, vous savez ce que je pense. Je pense que c'est de la magie noire et que la France est infestée jusqu'à l'os et qu'elle est possédée dans les sens le plus littéral. Et que, quand ça a commencé en Algérie, vous savez que je suis un peu médium sur les bords, hein. Ça a commencé, je le savais pas à l'époque, mais on est passé d'un pays qui était littéralement paradisiaque. L'Algérie, c'était paradisiaque quand on entend cette racaille de merde venir ça et qu'on se souvient des années, de l'école primaire dans les rues d'Alger, hein. Le respect, par exemple, qu'avaient les pieds noirs pour les vieux soldats dans le métro. Je me souviens un jour, dans le métro, dans un métro des tramways d'Alger, il y avait un vieux Chibani qui était là et qui rentrait. Un pied noir s'est levé, il y a dit assieds-toi et tout, et l'autre s'est levé, il avait sa lumière militaire. J'étais ému comme tout, j'avais 6 ans, quoi.
François, je vous donne la parole dans 2 minutes, le temps de la coupure technique. Nous continuons cette émission. Alors, je demandais à François Plantet, qui a passé toute son enfance, son adolescence et sa toute jeune maturité en Algérie, de nous donner en quelques mots, on ne va pas se lancer dans un grand discours là-dessus, mais de nous donner un petit paysage d'Alger dont on dit aujourd'hui que c'était une ville occupée par la soldatesque qui écrasait les pauvres indigènes, violait les femmes, égorgeait les enfants, etc., etc. Peut-être que François pourrait nous donner ses souvenirs à lui, comment il voyait Alger à cette époque-là.
Ce que je voulais dire d'abord, c'est que ce qu'on entend en ce moment, c'est tellement un mensonge tellement abyssal que techniquement, c'est quelque chose qui est vraiment littéralement diabolique au sens le plus fort. Moi, je crois que ce que j'ai vécu en Algérie, c'est-à-dire ce que j'ai vécu avant, pendant et après l'indépendance, je pense que ce pays a été l'objet d'un véritable, une infestation maléfique. C'est un sort qui est lancé sur la France et qui nous touche au plus profond. Et tout le reste, et toutes les autres explications sont pas tenables, parce que ce qui s'est passé, c'est terrifiant. Deux exemples, le 24 janvier où j'ai été blessé, le 26 mars, c'est une horreur insurpassable. Il y a eu quand même un nombre de morts hallucinant. Personne n'en a jamais parlé. C'était une horreur indépassable. Mais quand je suis, enfin, les souvenirs les plus anciens que j'ai d'Alger, je suis de 4 générations d'Algérie, ce pays était un paradis. Les gens étaient à la fois en excellente santé, ils étaient extrêmement sérieux. L'université d'Alger était une des plus élevées du pays. Quand on n'arrivait pas à passer le bac à Alger, on allait en France. L'université d'Alger, l'école de médecine était très largement au-dessus du niveau des chirurgiens parisiens, notamment parce que les chirurgiens d'Alger avaient eu l'intelligence de s'instruire auprès des chirurgiens américains, hein, donc les gens venaient se faire opérer à Alger. Et l'ambiance, les premières années, c'était une ambiance merveilleuse. C'est-à-dire l'unité dans la population était totale. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire de ce pied noir qui se levait pour laisser sa place à un vieux soldat qui saluait, parce que pour l'ensemble de la population, l'armée, c'était un symbole absolument transcendant. On peut même pas parler de sécurité. Il y avait pas d'ailleurs, nous, on était effarés avant l'indépendance des crimes sexuels qu'il y avait en France. Toute cette pourriture de pédophiles, de pédales, de machin, chez nous, c'était inconnu. Même le pauvre Luis Mariano, il s'était fait jeter. Il disait, putain, on va pas recevoir Luis Mariano, allez, c'est une pédé, il va pas chanter à l'opéra. Et donc,
Il l'avait viré. Donc l'ambiance est extraordinaire et la sécurité totale. Moi, je n'ai connu la France métropolitaine au début qu'à travers les récits de mes grands-parents. On allait en vacances en Haute-Kabylie. C'est-à-dire, on partait toute la famille dans un vieux taco de l'époque, en passant par les gorges de Palestro. On montait au-dessus de, dans la forêt de Yakouren, au-dessus d'Alxeur et de Bougie, qui étaient en dessous. Donc des zones qui ont été après l'objet de combats violents, hein. Personne au monde n'aurait pu imaginer. Et il y avait trois gendarmes dans le coin. Un jour, mon père, on est venu chercher à 3h du matin pour une femme qui était malade dans une meshta. Il est parti. C'était une tranquillité absolument totale. Les liens dans la population étaient extrêmement serrés parce qu'on avait toute une partie culturelle liée avec, avec les... Moi, je suis désolé, mais je me sens plus proche d'un arabe d'Alger que d'un hollandais. Hein. En Bourgogne, les hollandais me paraissent à des qui viennent nous voler nos maisons à 1000 années-lumière, des petits arabes avec qui on se castagnait dans les bas-fonds, parce que c'était ça. Hein. On allait au marché, ma mère me disait surtout, tu ne manges rien au marché, vous pensez que j'allais me manger les... Tu avais des sardines, tu peux pas imaginer. Dégueulasse, mais vraiment. L'ambiance était merveilleuse, et tout d'un coup, hein, le truc s'est produit instantanément, c'est-à-dire les forces diaboliques qui régissent le monde ont décidé qu'à l'instant T, il fallait que ça commence. Hein, et du jour au lendemain, ça s'est manifesté, il y avait des abstracts de la gendarmerie partout, le truc s'était enflammé, hein, et pendant toute la durée, parce que pendant cette affaire-là, nous on a été soumis à cette bataille d'Alger, où finalement, on n'a jamais été en si bonne santé, parce que vivre dans le danger, il n'y a rien de mieux, hein, pour la santé. Mais finalement, la population musulmane a toujours été... comme elle était avant, c'est-à-dire il n'y avait aucune différence, les liens étaient les mêmes, tout le monde était lié, la pénétration était extrême. Les histoires de grands propriétaires, sur les chiffres qu'a cité Roger, il faut dire quand même que sur les grandes, les très et les riches, les 95% c'était ou des métropolitains ou des sociétés d'exploitation de l'alpha, ou des hommes de gauche comme Blacher qui avait des terrains d'alpha pour des sommes ridicules, ou des conglomérats suisses, et tous ces gens d'ailleurs qui se la payer le FLN. Il y avait une espèce de vitalité qui s'est manifestée dans l'armée d'Afrique. Parce qu'il faut bien dire quand même que si on a vengé l'honneur sur les champs de bataille, c'est nous. C'est pas les zombies qui viennent nous cracher à la figure. Et lorsque, au moment où la bataille a basculé dans cette guerre d'Algérie, c'est-à-dire au moment où les FLN ont été écrasés, parce qu'ils ont été écrasés, moi ça me fait rigoler quand Siyazdine vient donner son navet. Si c'était des gens qui s'adaptaient à notre combat tout à fait correctement, hein, c'est ça qu'il nous dit. Non, il faut pas déconner quand même, le jour où le premier REP les a arrêtés sur le barrage où ils ont mis 1500 mecs au tapis, là, hein, c'était l'anniversaire de Cameroun, hein, c'est extraordinaire, il suffit... Lisez l'histoire du premier REP. Hein, moi, c'est le colonel Dufour qui m'a donné des renseignements de première main. Hein. Lorsqu'il y a eu le 13 mai, tout s'est arrêté d'un seul coup en Algérie. Hein. Le colonel Dufour me disait, on avait beau chercher, on trouvait personne, il n'y avait plus d'accrochage. Les faits disaient, mais alors la France est redevenue ce qu'elle était avant. Et un souvenir dont plus personne ne parle, c'est au 13 mai, sur le forum, quand un jour, quelqu'un a dit, nos frères de la Casbah descendent à Quelielé. Ça a été hallucinant, le truc. Hein. Il y avait 50 000 Arabes qui sont arrivés. C'était une bouffée de joie où les femmes enlevaient leur voile en disant « On en a marre maintenant, il y en a marre, on a soupé de ces putains de voiles, il y en a fainé et tout. » C'était, hein. Et je me souviens de la femme qui disait « Nous saluons le capitaine Bernal qui commande la... » C'était un truc inouï. Il y avait tous les camarades du lycée, s'ils m'entendent, ils doivent s'en souvenir. C'était... Et à cette époque-là, les gens du KGB, ils avaient dit, c'est le premier axe vraiment contre-révolutionnaire. Tout s'est sidéré pendant un moment. Et Alger était dans une ambiance miraculeuse. Là, je passe sur le côté un peu mystique, co-métaphysique, vous me connaissez, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé des trucs en avance. L'atmosphère était totalement miraculeuse. C'était d'une beauté. Il y avait une puissance et une santé incroyables. Et je me souviens qu'on a été très proche de grands événements, parce que je crois que c'est Château-Jobert qui m'a dit un jour que les officiers avaient prévu d'amener le prince de Bourbon-Parme, Hugues de Bourbon-Parme, et de lui confier la régence de la France. Ça s'est joué. Moi, j'ai compris quand j'ai vu arriver Neuwirth, cette espèce d'ordure. Je me souviens ce fils de Pitchkumat, je vais le dire en serbe, c'est moins grave, hein, qui est venu nous dire « Allez les gars, un petit coup encore, crie Algérie française ». Je le voyais, il se foutait de notre gueule, cette espèce de salope. Et moi, j'étais là avec les camarades, j'ai dit « On est perdu, quoi ». Et quand j'ai vu arriver De Gaulle, sur le 13 mai, je l'ai regardé, c'était un être improbable, une espèce de... principe, on aurait une espèce de boudin immonde avec une tête en forme de poire irréelle, des grandes oreilles, enfin, espèce de démon, mais du genre grotesque. Quand il l'a parlé, j'ai dit, on est perdu, quoi. Et les camarades, ils m'ont dit, quoi, t'es communiste et tout. J'ai dit, on est perdu, dans 2 ans, on est parti. Et je me suis pas trompé. À partir de là, on est rentré dans l'enfer. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme s'il y avait une possession démoniaque sur l'Algérie. J'ai commencé à avoir des cauchemars horribles et j'ai vu changer l'ambiance. Hein. Et notamment à partir des hauts fonctionnaires qui venaient chez nous, les tataclacs, parmi lesquels Chirac est venu. Parce qu'à l'époque, il profitait de l'accueil de grands bourgeois d'Alger. Et notamment, il était fourré chez nous au Club des Pins, qui était la plage la plus chic d'Alger. Hein. Et déjà, on voyait, ouais, ces tronches de hauts fonctionnaires qu'on appelait les frongaouis, qui était la tête à claque par excellence, les têtes d'imbéciles, quoi, qui étaient là, et qui savaient qu'ils venaient nous trahir tout en profitant, hein, des gens qui étaient très riches parce qu'on avait une classe de gens très chics à Alger, hein, genre bien élevés. Alger, c'est une capitale, hein. Hein, c'est pas les petits blancs, comme disent ces espèces d'imbéciles, quoi. C'était une grande ville, très belle, très chic, avec des gens extrêmement bien élevés. Et dans cette période extraordinaire où le pétrole est sorti du Sahara, il y a eu un regain de vitalité dans cette ville. C'était étonnant, quoi. On voyait arriver à Alger les camions, les berliers spéciaux. C'était le Texas. On voyait arriver les pétroliers qui claquaient un fric fou chez les pour s'acheter des habits. Il y avait une vitalité étonnante. Moi, j'avais des camarades quand j'étais encore en première année de médecine qui allaient dans les usines de la Seine-Répal travailler pour se faire un peu d'argent. Il y avait une vitalité dans ce pays extraordinaire. En plus, on avait la meilleure armée du monde. Donc, il y avait une force physique. C'était palpable, quoi. Ce truc-là, c'était vraiment vampirisé. Cette espèce de pays merveilleux s'est réduit sous la forme de cet être effrayant, quoi. Je sais pas, cet être, ce golem infernal qui est venu nous injecter ce poison. Et j'ai vu, ça a été horrible. Hein, le maximum, ça a été le 26 mars, hein, où ils ont instrumentalisé la gendarmerie. C'est extraordinaire, parce que la gendarmerie, c'est une arme sacrée. Hein, c'est la police des routes du royaume. Le prévôt des maréchaux, il est à droite du roi de France dans les batailles. Hein, donc la police des routes du royaume, c'est une tâche presque métaphysique. Hein, la protection des carrefours, ils ont réussi à infester la France par la gendarmerie qui les sergents massiers du Louvre, c'est les premiers officiers de gendarmerie qui ont protégé le pont à Bouvines qui avait une valeur tellement importante, quoi. Ces types ont inversé. Et à partir de ce moment-là, la dégradation a été épouvantable pour arriver au dernier jour où les gens ont commencé à se sauver comme des fous. Hein, moi, mes parents ont voulu à tout prix que je reste, ils sont restés. Ils ont vu que je parte. J'ai passé 3 jours à l'aéroport, c'était horrible. J'ai vu des femmes qui se battaient pour avoir de l'eau pour leurs enfants et des CRS qui rigolaient, quoi. Hein, s'ils existent encore, hein, que Dieu leur fasse une explication des images, quoi. Hein, bon. Cette dernière année a été terrifiante. Moi, je peux pas dire autre chose que ce qui s'est passé en Algérie, c'est une infestation démoniaque et ça nous colle à la peau. On peut pas s'en sortir. Hein. La seule façon de s'en sortir, c'est retourner là-bas. Il y en a pas d'autre. On peut pas inverser ce flux. Et quand je le vois, Siyasdine, enfin, c'est typiquement le poète arabe, hein, c'est-à-dire celui qui va créer. Nous étions dans la montagne, nous faisions la guerre. Quand il vient nous dire, je suis revenu à Alger pour lutter contre l'OAS, que nous avons repris maison par raison, je dis, Siyasdine, hein, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait mes parents qui étaient là-bas. Jamais Alger était aussi tranquille que pendant cette période, parce que les accords de Susigny avaient calmé le jeu, hein, et il n'y a eu aucune guerre de quoi que ce soit, même pas d'enlèvement d'Irien. Moi, je suis retourné peu de temps après Alger. Hein, mais ces gens-là, c'est des enfants, hein, c'est des enfants avec cette cruauté abominable qu'on voit pendant cette guerre. Voilà. Enfin, on pourrait en parler. Ce que je peux dire, c'est que le contraste est tellement terrifiant que je ne vois pas d'autre explication qu'une action magique sur l'Algérie. Il faudra bien que, quand même, les gens comprennent que la réalité du monde, elle est terrifiante. Même que les francs-maçons, c'est très secondaire. Hein, hein, que c'est des muletas qu'on met devant les gens. La réalité, elle est horrible. Hein, elle est dans les sacrifices d'enfants qu'il y a eu sous Louis XIV. Elle est maintenant dans des pratiques qui sont de la magie noire industrielle. Et l'Algérie a été totalement industrialisée dans cet aspect-là. C'est ce que je peux vous donner, de, si vous voulez, de plus original sur cette horreur. Alors, quand je suis retourné à Alger et que j'ai vu la ville, c'était comme un squelette avec de la vermine dedans. C'était terrifiant, quoi. Hein. Au bout de 10 jours, plus un ascenseur ne fonctionnait, quoi. Hein. Cette ville, qui était une merveille, c'est le plus grand vol de l'histoire du monde. Hein. Est-ce qu'on peut dire autrement que ça? Hein, tout a été volé dans nos maisons. Et on est parti avec rien. Ça a été dévasté. Et le gouvernement me fait payer des impôts alors qu'il me doit tout le patrimoine de mes parents, hein, qui ont quand même mis 4 générations, dont des Espagnols qui arrivaient en barque des îles Baléares. Et 4 générations après, ils avaient gagné de l'argent. et pas comme les têtes à claque style Juppé, style voyou de merde, parce que peut-être qu'ils ont fait trois rédactions à Normal Sup, hein, cette espèce de tête à claque avec ses cravates vulgaires, hein, qui vont pomper l'argent de la République en venant pleurer. Enfin, ça c'est peut-être encore plus démoniaque. Hein, ces espèces de gros porcs qu'on voit rue de Varennes et tout, que tout ce que je viens de vous raconter. Enfin, l'un dans l'autre, eh bien, il faut demander, si j'ose dire, il faut demander au bon Dieu de nous délivrer, quoi, hein, parce que.
Merci, voilà. François, voilà. Merci, soirée. Magnifique. Ouais. Pas ah, oui, ça décape bien, ça fait, ouais, ça fait du bien. Alors, on va, pour faire une petite césure.
On peut lire un peu de message, non?
Oui, on peut lire, mais parce il faudrait que, le faire assez rapidement, alors.
Je vais vite. Une auditrice nous dit: j'ai été écœurée par tout ce qui a été dit à la radio et à la télé sur l'Algérie. C'est un scandale et je vous remercie de rétablir la vérité. Avez-vous noté qu'on ne parle plus de la Toussaint sanglante, mais de la Toussaint noire? C'est assez significatif. Et enfin, on parle de l'Algérie comme les révolutionnaires parlaient de la Vendée. C'est encore une preuve que c'est toujours la gauche qui écrit l'histoire. Et une auditrice demandait: j'ai entendu dire que quelques pieds noirs étaient retournés en Algérie. Est-ce vrai? Ça ne doit pas être vrai. Bon. Et puis on nous donnait
un message, un extrait
de l'épître à Saint-Augustin de Jean de Sélas. En parlant des Français actuels et s'adressant à Saint-Augustin. Réveille-les, Père, ces somnambules qui maintenant vaquent toujours autant. Réveille-les, le désastre est latent pour Babylone où Satan déambule. Réveille-les, qu'ils ne soient pas demain assassinés comme ces bons Romains dont le seul crime avait non-tolérance. Réveille-les, car déjà sur les tours claque le bec des voraces vautours, grands dépeceurs de cadavres bien rances. Oui, voilà, c'est tout. Alors,
on va faire donc la césure musicale que je vous promettais il y a quelques instants.
Je peux dire quelque chose?
Oui, François. Sur
le disque est.
Oui, alors, c'est vous qui avez apporté le disque.
D'une part, pour ma chère Valérie, ma prof de danse, et puis pour une autre personne que je ne citerai pas.
Alors, il faut expliquer quand même que François Plantet, parmi ses nombreuses activités, fait de la danse, comment appelle-t-on ça?
Danse sportive.
Il a trouvé que ça allait bien avec les arts martiaux.
C'est bien en plus, après tout ce qu'il vient de nous dire, c'était extrêmement viril.
Ouais, c'est très viril la danse.
Au contraire,
Oui, là je crois que côté viril, il n'y a pas.
Bon.
Et donc, il nous a apporté un petit morceau qui va permettre de passer de la tragédie à la bande dessinée, en ménageant le passage pour
une valse anglaise
pour Claude
dans une structure complexe.
Encore que quand on parle de l'Algérie, Claude, tu sais de quoi on parle, si je me souviens bien.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Alors, on va tout vous dire. Pendant qu'on écoutait cette merveilleuse valse « Are you lonesome tonight ?» qui a fait quand même le grand succès d'Elvis Presley et de Dean Martin, Claude Moliterni recevait un coup de téléphone de Patrice Serre, qui était dans ce studio la semaine dernière. Alors, Claude Moliterni, c'est un des, une des grandes figures de la bande dessinée en France. On pourrait même dire presque qu'il est un de ceux qui a...
International même,
on peut dire. Oui, international, mais en France, c'est pratiquement lui qui a... Oui. On va pas dire créer le genre, c'est pas vrai, mais qui lui a donné son... Son ampleur, ça, et ce qui en a fait un le huitième art, qui a décidé le huitième est en cinéma, que ce soit une activité secondaire pour les enfants et tout. Non, il a dit, c'est un art véritable, et il nous a fait découvrir des pures merveilles. Je l'invite ce soir parce qu'il publie une encyclopédie de la bande dessinée internationale, BD Guide 2005, de la collection Omnibus, ce qui montre d'ailleurs l'importance du sujet, parce que Omnibus publie pas n'importe quoi, et c'est un fort, fort beau livre apparemment. Je viens de le découvrir, et alors vraiment il y a une photo admirable.
Ah oui,
l'espoir. Je me souvenais pas que j'avais été aussi beau. Oui, hein, même vous étiez...
Ah, heureusement qu'elle est légendaire.
Merci. Alors ça fait quand même
1800 pages,
c'est énorme ça.
Oui, oui.
Donc je vais pas te demander, Claude, comment tu as eu l'idée de faire ça, puisque c'est le résultat quand même d'une vie entière de travail,
des années,
de cogitation, de réflexion,
de fiches, de documents, de photos qu'on garde dans les tiroirs et qu'on sort au moment voulu. Non, c'est un travail extrêmement long. Il faut chaque jour mettre à jour une fiche pour afin que le jour il y aura une réédition en 2007. Et chaque réédition apporte de nouveaux articles. Donc, mais cette année, il y a un article assez intéressant qui n'a jamais été écrit dans l'histoire de la bande dessinée. C'est toutes les adaptations tirées de la bande dessinée en cinéma, en sérial, au début des années 10, 20, 30, mm-hmm. en animation et même en comédie musicale. Donc là, j'ai fait un travail extrêmement long de recherche. Il a fallu vraiment citer tous les films de Félix Lechat ou de Walt Disney. C'est un petit travail. Et ensuite, j'ai trouvé de la documentation, trouvé le nom du producteur, la maison de production, la durée, le pays, les films pirates qui ont été réalisés en Turquie et en Yougoslavie, d'après Superman ou Batman.
Ah, il y a même ça.
Oui, il y a même ça.
C'est une
donc,
somme. Hein.
Ça, c'est un énorme travail. D'autre part, pour la première fois, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors, c'est que... Il rentre 200 auteurs italiens, même en Italie il n'existe pas un ouvrage de ce style où on peut se répertorier sur les auteurs dessinateurs italiens.
Et alors, est-ce qu'on a des informations sur l'auteur du Petit Prince?
Ah, tiens,
De Vita.
Il doit y avoir quelque chose.
L'introuvable De Vita.
De Vita, c'est sûr. C'était un copain de Fellini. Grand copain de Fellini.
Ah, ouais.
Oui, j'ai même une photo de Fellini et de Vita côte à côte devant un magasin de librairie. Et d'autre part, j'ai fait l'année dernière un voyage à la même époque, pratiquement, en Côte d'Ivoire. J'avais été invité à un festival qui s'appelait Cocobu. Et là, j'ai découvert ce qu'était la bande dessinée africaine, fort intéressante, de l'Afrique du Sud en haut. Donc, j'ai prospecté pendant les dix jours que j'étais présent au Grand Bassam, à côté d'Abidjan. Donc, je me suis permis donc de pouvoir apporter de nouvelles fiches sur l'Afrique, et ça a été très bien écrit.
Alors, est-ce que tu as rencontré Beckett?
Non, je l'ai rencontré.
Tu sais qu'il y a un caricaturiste africain qui travaille dans la presse africaine et qui signe Beckett. Ah. Donc mon rêve, c'est de le rencontrer.
Oui.
Je voudrais lui poser la question. Est-ce que c'est vraiment son nom?
Non, parce qu'il y a même un Reiser. Alors tu vois, c'est quand même étonnant.
Oui.
Mais, ils aiment bien, je crois, adopter des noms de grands auteurs.
Mais je dois dire que quand j'ai découvert ça sur le net, j'étais un petit peu surpris.
Et le gag, c'est qu'à la fin, on s'est amusé pour tenir une partie, je mets entre guillemets, ludique, pour dire à chaque acheteur, amusez-vous. rendez-vous, il y a un quiz. Ah, il y a 500 questions sur la bande dessinée. Nationale et internationale.
Donc, et donc, pour les auditeurs, peut-être on peut poser des questions.
Voilà, on peut poser des questions.
Ouais. On va poser une question, et puis je propose qu'on donne un prix à ce...
Qu'est-ce qu'on gagne?
On va poser une question difficile, parce que vraiment...
Ah, il y en a qui sont... Il y a des questions très difficiles.
Hein. Alors, écoute, je te laisse choisir la question, Claude.
Si tu veux, oui.
Vas-y, choisis une question difficile.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un très bel ouvrage, on a envie de le mettre chez soi, à côté du quid, à côté des dictionnaires de cinéma, d'opéra...
D'abord, il est fait comme ces nouveaux dictionnaires...
Très maniable, qui se décolle pas.
Souple, mais inarrachable.
Ça, je vais courir l'acheter.
Donc tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'il faut savoir.
Il y a toute l'histoire en première partie, il y a toute l'histoire de la bande dessinée francophone, des comic strips, et puis de combien de pays, Claude, tu as recensé une quarantaine de pays.
40 pays.
C'est formidable.
C'est une belle iconographie aussi.
Dis-toi qui es un spécialiste de la BD, est-ce que tu as appris des choses en lisant ça?
J'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu.
Et Claude, tu as appris des choses en lisant les collaborations de des autres.
Non, mais le problème, c'est que nous avons tous, une vue quand même complète sur le problème, mais nous nous sommes répartis. C'est-à-dire que Philippe Mello est plus spécialement braqué sur la bande dessinée franco-belge des années 30-70. Laurent Turpin, c'est la bande dessinée contemporaine, c'est un type qui a une trentaine d'années, donc il est toujours sur le coup. Quoi. Nathalie Michel, c'est la spécialiste de la BD américaine, et Michel Denis, qui tient une librairie de bande dessinée ancienne, et celui qui a été vraiment à la pêche de tous les vieux dessinateurs de la fin du 19e et du début du 20e. Voilà. Et moi, je couvre toute la partie internationale, américaine, indonésienne, japonaise, manga et autre chose. Donc c'est un travail extrêmement... pointilleux, il faut vraiment être vigilant parce qu'on est toujours guetté. Parce que quand on est un mannequin comme ça, le type il n'est pas épaté. Tu vois. Lui il cherche tout de suite, il a
le voilà, truc. Ouais. Hop, alors, il va voir s'il n'y a pas une erreur, s'il connaît,
bien sûr. Donc,
on a envie de l'avoir. C'est
mon éternelle question.
Oui, oui, alors, voilà. On écoute.
Milton Caniff, le dessinateur de Terry les Pirates, a dessiné Steve Canyon. Une très très grande bande dessinée d'aviation. Mm-hmm. C'était un colonel qui était de réserve, donc qui a fondé une société d'aviation et qui faisait du trafic aller-retour en portant... Et à un moment donné, il a introduit un Européen dans sa bande dessinée qu'il appelait Monsieur Tout. Donc je propose trois noms. Qui est Monsieur Tout? Rinaldo Traini, le directeur de Expo Cartoon en Italie. Mm-hmm. André Le Borgne, le grand spécialiste de la bande dessinée belge, et Maurice Horn, historien de la bande dessinée internationale.
Alors ça, c'est une... C'est
un chronomètre.
Donc la première bonne réponse aura offert par moi-même un exemplaire de cette encyclopédie de la bande dessinée.
Ça, c'est un bouquin 2.
Guide 2005. Voilà.
Alors, je signale que la réponse est dans le bouquin. Hein.
Bah oui, mais on ne peut pas le savoir puisqu'il ne l'a pas.
Ah, mais il y a peut-être des auditeurs qui l'ont.
Milton Caniff, dans Steve Canyon, campe un personnage qui est un Européen.
Qui
l'appelle Monsieur Tout. Et la question est de savoir s'il s'agit de Traini. L'Italien Traini, le Belge Le Borgne et Horn ou de Horn, qui sont trois spécialistes de la BD, qui sont on pourrait dire des clones ou des concurrents ou des pâles imitations de Claude Molitor.
On a le droit de jouer dans le studio. On a le droit de jouer dans le studio.
Non,
ah bon, non, ben ça tombe bien.
Est-ce qu'il y a une espèce de bruit qui court en ce moment qui dit que la bande dessinée est en perte de vitesse? Est-ce que tu as cette impression?
Non, pour le moment, elle n'est pas du tout en perte de vitesse. En 2003, il était sorti à peu près 2706 albums et réimpressions. Et nous avons dans notre équipe Gilles Ratier, qui est celui qui recense tous les albums qui sont édités en France et en Belgique. Et chaque année, sur notre site www.bdzoom.com, le site de la bande dessinée, où il y a toutes les informations quotidiennes, dans à peu près 15 jours, nous allons donner le point de toute l'édition 2004. Et nous pensons que nous allons encore dépasser ce chiffre. Ouais. Mais tu as tout à fait raison, je pense que l'année 2005 préfigure la chute de la bande dessinée. Là, parce qu'il y a tellement de productions, il sort à peu près 7 albums par jour. Je vois avec beaucoup de difficultés, même le fanatique, le fan, aller dépenser 150 euros par jour pour acheter tous les albums. Donc, je crains que les grands éditeurs vont commencer à serrer la vis et que pas mal de dessinateurs et de scénaristes vont se retrouver sur le carreau.
Et quel a été le résultat du relancement de PIF?
Ah oui. Et bien, pif, ça a été un énorme succès. Le premier numéro s'est vendu à plus de 360 000 exemplaires. Le deuxième numéro, il a commencé à en perdre 150 000.
C'était
pris. Et le deuxième, le troisième, il se porte pas très très bien. Et je pense que ça va être difficile. Quoi. Et par Donc, contre, j'annonce un nouveau numéro de pilote pour le mois de décembre.
Mais maintenant, c'est l'annuel maintenant, pilote.
Voilà, oui.
C'est même plus l'annuel, c'est le décennal,
quand ils ont envie. Oui. Mais quand il était sorti, c'est toujours le phénomène de la nostalgie. C'est-à-dire que, automatiquement, les gens, pilote est sorti, ça fait 10 ans qu'il s'est arrêté, hop, on l'achète, puis après c'est fini, quoi. Ouais. Et le phénomène de pif, alors là, ils vont mettre les poissons de terre dans le
oui.
Pour essayer de
relancer. Une fois, on fait les crevettes se dessécher, une fois les poissons de terre, puis après...
Est-ce que vous disiez sur la pléthore de production, ça rejoint exactement l'édition, qu'on est dans le même phénomène que le livre écrit.
Exactement, oui. Par exemple, le pocket, il y a à peu près 43 à 47% de retour.
Ah ben voilà, bon...
Oui, chaque mois. Donc, ça, c'est un phénomène, mais on continue. C'est ça qui est fou, c'est que il y a des livres de poche qui sortent. Je ne sais pas, il y a 85 à 90 titres par mois qui sortent.
Voilà,
quoi.
Ça, c'est toute la production.
Non, c'est fou. Les libraires ne savent plus où donner de la tête. Voilà. Et on va.
Ah oui, bah, pour revenir à la BD, est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que moi c'est un milieu que j'ai un peu abandonné depuis quelques décennies aussi, est-ce qu'il y a aujourd'hui des très grands comme on a connu, comme les Giraud, comme les Druyet, les Laureau, les Alexis, tout ça,
tous des Fred. Il y a des grands, mais c'est tout à fait différent.
Ouais.
C'est une autre génération qui est issue de la fameuse association qui était une réunion de jeunes auteurs underground, si on préfère, entre guillemets, et puis de cette association sont sortis des grands noms, mais qui sont pas des grands graphistes, c'est plutôt des scénaristes qui racontent leur vie quotidienne, tu vois, l'aventure a quasiment disparu, il y a eu l'heroic fantasy qui s'installe avec Delcourt et Soleil, mais on peut citer encore, il vient d'être primé à Luca, donc festival qui vient de se terminer avant-hier, le dénommé Johan Sfar, qui est primé partout, qui est accueilli partout, et qui sera, je l'annonce aujourd'hui et on verra, il sera Grand Prix d'Angoulême.
C'est toi qui décides, non ?
Non, c'est pas moi. C'est le gars qui a le vent en poupe, il est intelligent, il est brillant, il est assez opportuniste, il sait le faire, et il sera, pour moi, c'est le nouveau Goscinny, quoi.
Carrément.
Ah oui, il fera une carrière comme Goscinny.
C'est quand même pas Goscinny.
C'est pas Goscinny, mais.
Mais il fera une carrière du.
Mais il a beaucoup de talent et il sait y faire. Pour moi, Sfar, c'est un mélange d'Hugo Pratt et de René Goscinny.
Ah, oui, effectivement, il a des chances de réussir.
Il a la technique byzantine de Pratt pour rapprocher les gens.
Oui.
Et il a l'humour de René
Goscinny. L'élégance de René Goscinny.
Que tu as très bien connu.
Ah oui. Et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un des hommes qui a marqué mon existence, et pas seulement parce qu'il m'a fait travailler à pilote, mais parce que c'était vraiment quelqu'un de tout à fait exceptionnel.
Et à propos de René Goscinny, on signale quand même, je pense que les auditeurs le savent, qu'il y a, je crois, 80 histoires, c'est ça ? 40 ?
Il y a la réédition du Petit Nicolas.
Du Petit Nicolas.
Les 75 000 exemplaires ont été en 15 jours, et on vient de réédiger 150 000.
Illustré par Sampé, par Jean-Jacques Sampé.
Oui.
Mais l'idée de refaire un hebdo, c'est totalement exclu.
Il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites avec des mensuels, des mensuels d'études, comme Bande Dessinée Magazine, comme BDK, bien sûr le Bodoy qui est le plus ancien et à mon avis l'un des meilleurs, et Bande Dessinée Internationale qui à mon avis ne durera pas trop longtemps, très longtemps. Et donc, mais il y a tout le monde aujourd'hui dans les maisons d'édition, tout le monde sent qu'il y a quelque chose. Alors tout le monde veut faire de la BD. Et ça, c'est bien, c'est un peu grave parce que c'est appréhendé par des gens qui sont totalement extérieurs à ce phénomène éditorial et qui vont à la catastrophe à chaque fois. Mais tout le monde va dire, ah, ça y est, là, c'est bon. Il y a des articles, n'oublions pas quand même que dans le top de lire chaque mois, le premier titre qui était même devant le code Da Vinci Code, c'était Titeuf. Faut quand même oublier. Et quand on regarde les 20 ou les 15 premiers, il y a quand même 5, 6 titres de bande dessinée et pas dans les 10 premiers sur les 15. Donc, les éditeurs qui tournent les pages et qui voient ça réfléchissent et ils se disent, il y a peut-être là une masse Cannes à exploiter.
Ben oui,
voilà. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 147 éditeurs qui sont présents en Angoulême. Non, c'est quand même incroyable. Avec une vente religieuse qui est Média Participation d'Argot, qui a mis la main
sur Dupuis,
sur Le Lombard et sur Black et Mortimer et sur d'autres maisons d'édition que je nommerai pas.
Le dernier Black et Mortimer, tu l'as lu ?
Ah, écoute, alors là, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu. Alors là, j'en profite parce que je n'oserais pas en parler sur mon site, mais là, parce que c'est plus délicat, parce que ça reste. Mais j'avoue, quand je vois cette couverture, cette affiche, c'est pas du tout Jacobs. Ben, là, vraiment, André Julliard, il s'est égaré. Ce batiscaf des années 30 ou 40, je n'en sais rien, qui surgit d'entre les glaces, me sidère. Là, vraiment, là, je pense que le pauvre Edgar s'est déjà retourné pas mal de fois. Maintenant, là, il a pris vraiment le tour. C'est une brille. Pauvre vieux, bon, pauvre Edgar, vraiment. Mais ça va faire encore 450
000 exemplaires. C'est pas fini.
J'ai l'impression que tu as piégé tout le monde avec ta question, parce que Patrice Serre, visiblement, n'a pas osé téléphoner.
Ni Jean Châtel.
Alors que Patrice, il a dessiné, lui.
Il a travaillé. Johnny Hazard.
Voilà.
Je vais faire une insulte. Jean, mon vieux Jean Châtel, que je connais depuis 30 ans, si tu es à l'écoute, appelle.
En tout cas, j'ai pu vérifier, moi, le sérieux de cette encyclopédie, le caractère complet de ce travail, puisque je me suis porté, évidemment, vers la notice qui est réservée à Jean-Marc Laureau, qui était
plus que
mon ami, qui était notre frère, parce que je pense à ma femme Danielle, on était vraiment très très amis, on adorait Jean-Marc, et c'était une perte terrible quand il est mort. Et je vois que il est indiqué dans la notice qui le concerne qu'il a eu il a dessiné des scénarios de ADG.
Oui, ADG était scénariste.
ADG qui nous a quittés
dans Pilote, oui.
Et qui avait
une série policière.
Fait pour lui une série qui s'appelle Inspecteur Beaugard.
Voilà. Et il a fait aussi un spécial police pour à suivre, ADG.
Oui. Voilà. Oui, qui a d'ailleurs fait un certain bruit. Hein.
Je me souviens bien.
Ça, c'était. C'est pour ça que j'entendais ce matin les radios qui rappelaient. Non, c'est dans Libération. Il y avait un article très gentil d'ailleurs qui rappelait que ADG n'avait jamais commis la moindre incongruité en matière de ce qu'on appelle le racisme ou l'antisémitisme. Alors, c'est évidemment ça, mais c'est vrai. Il n'a jamais commis d'incongruité, mais les gens de Libération le découvrent maintenant, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, au moment où il avait fait ce numéro spécial, il avait participé à ce numéro spécial, ils n'étaient pas du tout du même avis, parce qu'il y avait une affaire, il racontait une affaire criminelle qui avait fait pousser les hauts cris, hein, qui avait d'ailleurs valu des poursuites. C'était illustré par Sokal, non ?
C'était celui qui dessinait Canardo, oui.
Voilà, exactement. Et ça avait fait beaucoup, beaucoup de refus, alors que c'était complètement anodin. Bon, c'était un tout petit peu, comment dit-on, insolent.
Oui.
Irrévérencieux.
Voilà. Voilà. Mais n'oublions pas quand même son dernier roman, là, Kangaroo Road, qui a été son plus grand succès à ADG, qui a eu les plus belles critiques de droite et de gauche.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au moins, il part là-dessus.
Il a eu la consécration qu'il méritait avant. Et ça fait très plaisir de savoir qu'il a pu avoir la reconnaissance de ses pairs avant d'aller voir son père.
Claude,
et notre père à tous.
Est-ce que tu as vu l'exposition Franquin ?
J'ai vu l'exposition Franquin, oui. Elle est très
La Villette.
Elle est très intéressante, une très très belle scénographie. Le seul regret que j'ai, c'est de voir tous ces tubes métalliques qui sont au plafond. C'est la Cité des Sciences, bien sûr.
Voilà, ouais,
mais s'il y avait eu quelques vélums discrètement disposés, je pense que ça aurait été plus agréable. Parce que là, on se plonge, on peut voir donc des faux originaux. Il y a des facsimilés.
Ouais.
Toute la partie Marzub, Gaston sont des facsimilés. Mais
Spirou,
une reproduction
parfaite.
Et les seuls originaux qui sont présentés, ce sont les originaux des Idées Noires,
qui sont
posés dans des boîtes avec je ne sais combien de glace pour qu'on puisse pas y accéder. Puis ensuite, il y a, bien sûr, la Riolin, il y a plusieurs voitures, il y a la Graphophone, tous ces trucs classiques qu'on a déjà vu plusieurs fois. Mais c'est une exposition à voir.
Tu trouves pas quand même que je vais commettre je vais dire quelque chose qui va me valoir la haine de beaucoup de monde, mais tu n'as pas l'impression que que c'est un tout petit peu surévalué quand même, Franquin, cette espèce de franquinomania qui s'est emparée du... C'est quand même pas le plus grand dessinateur de l'histoire, c'est pas le plus grand génie de l'histoire. Moi, je suis un fanatique de Gaston.
Non, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit ses originaux, ses facsimilés, on découvre réellement le talent de Franquin. On le voit là. Le problème de Marzu Productions, de M. Meyersoun, son éditeur maintenant, c'est qu'il faut toujours faire revivre le personnage. Il n'y a plus de nouvelles éditions. Donc, le seul moyen de raviver la flamme, c'est de faire des expositions, ou alors de trouver un dessinateur médiocre pour dessiner Mars du Pyramide, ce qui est arrivé.
On ne donnera pas de nom.
Mais c'est ça.
Mais attention, parce qu'ils écoutent la radio, les dessinateurs, ils peuvent faire que ça, ils ne peuvent pas regarder la série.
C'est vrai. Mais je conseille d'aller voir cette exposition, parce que lorsqu'on voit le trait, vraiment, là on sent que ce type avait un génie du dessin. Mmh. Mais qu'on ne ressentait pas dans les pages de Spirou. On éclatait sur le gag, mais on voit l'original,
il avait créé un monde merveilleux. Mais moi j'ai toujours trouvé, en l'aimant beaucoup, je répète, mais que par rapport, je dirais, à Moebius, par exemple, Gilles Moebius, c'est un dessinateur intéressant.
C'est deux mondes différents.
C'est deux mondes différents, mais il y a un génie, Léonard de Vinci, ou je sais pas, vraiment, qui est de ce niveau-là, qui est Moebius, Gilles Moebius, et puis à côté, il y a un très très bon artisan qui fait du très bon boulot, mais voilà, c'est mon opinion et je la partage.
On pourrait peut-être parler de Jigé, puisque, tu parles de Franquin et de Moebius, qui ont quand même été abreuvés à la science de Jigé.
Bien sûr. Voilà, en tout cas, très très bon. Moi, je suis en train de le feuilleter en même temps. Là,
il y a tous les grands auteurs de manga japonais.
Ah oui, alors ça,
c'est un énorme travail. Pour avoir des informations, c'est vraiment. Le problème, pour avoir simplement une date de naissance, une date de décès, d'avoir. C'est des problèmes énormes.
Hein. Ah oui.
C'est un travail fantastique parce qu'elle n'existe pas. C'est déjà écrit. C'est bon. C'est peu adapté. Mais là, c'est.
Jean Châtel. Tu vois, Jean Châtel répond au divin marquis Maurice Horn.
Ouais.
Bravo.
Il va me l'offrir.
Bon, alors je tiendrai parole, je ferai à Jean Châtel.
Alors j'insiste, Jean n'a pas le bouquin.
Bon, bah alors.
Ah bah alors.
C'est la raison. Il a tout dans la tête. Il faut dire que sa femme est un dessinateur de bande dessinée aussi, Anne Châtel.
Anne Châtel, bien sûr.
Oui, oui.
Ah, ça, là, je suis épaté que Jean est pour vous. Bravo.
Ah, bravo, Jean.
Ça fait plaisir de savoir qu'il nous écoute aussi.
Oui.
Mais il écoute pour moi, je vous signale. Non, mais enfin, là, ce soir. Oh,
ça a été une surprise, donc voilà. Moi, je croyais que c'était pour moi, mais bon.
Tellement.
Claude. Voilà. Merci d'être venu, je rappelle, le titre de ce gros bouquin de 1800 pages, 1821 pages, c'est ça ?
1972.
Oh là là. Mais très maniable, léger, tout comme on sait faire maintenant, la collection Omnibus, ou, alors je vais commettre une fois de plus une incongruité en me le mettant en parallèle, ou la collection Bouquin, dont je suis un fanatique, c'est la même qualité de la même société de fabrication.
Prix, le prix.
Alors, le prix, c'est 30 euros.
T'as un cadeau de 30 euros, Jean.
Alors, c'est donc BD, Guide 2005, Encyclopédie de la bande dessinée internationale, Culture BD, 4000 articles, dont 1500 inédits. BD, cinéma, toutes les adaptations de 1909 à 2005, c'est un travail phénoménal. Ça. Voilà. Il y a un quiz BD de 500 questions, et les auteurs sont sous la haute direction de Claude Moliterni, Philippe Mello, Laurent Turpin, Michel Denis, Nathalie, Michel.
Ah, à tes souhaits.
Prends mon élan. Non, ça ne devrait pas m'arriver à moi, mais je ne m'y attendais pas. Nathalie Michel Cheleskovska. Voilà.
Bravo. Salut,
bravo.
On est presque allé au bout. Merci Claude, merci
Serge.
Il faut que Guy, vous repreniez votre chronique régulière dans cette émission. Je ne sais pas pourquoi vous avez disparu.
S'il faut m'inviter plus.
Ah bon, c'est ça.
Ah, ça, c'est ce qui nous
menace. Mais je reviens dans 15 jours.
C'est une bonne raison.
Je reviens dans 15 jours. Mais je suis toujours disposé, bien sûr, à causer. dans le poste.
Voilà, on va organiser ça de façon plus sérieuse. Puis ça me fait toujours très très plaisir de voir Claude, de voir l'inoxydable Claude Oliverny.
Qui ne change pas.
Quand on était beaucoup plus jeune, on pensait qu'il était beaucoup plus vieux que nous parce qu'il avait déjà une magnifique patinoire mouche. Et maintenant, il n'a pas bougé du tout. Ce qui fait que nous, on le rattrape petit à petit. Et maintenant, je crois que je fais 10 ans de plus que toi.
N'exagérons pas.
Mettons 5 et normalement.
Comparé avec la photo.
Voilà. Merci Claude.
C'est moi qui te remercie, Guillaume.
Michel Bauger, bonsoir. Alors vous êtes un personnage tout à fait particulier parce que vous êtes un écolo d'un genre, comment dirais-je, industrieux. Hein, on peut dire ça ?
On peut dire ça.
C'est-à-dire qu'il faut que vous approchiez du micro. Vous avez donc décidé que l'écologie... En fait, vous êtes parti d'un principe qui me paraît... Un excellent principe en général, c'est que chacun ne fait d'efforts que dans la mesure où ça peut lui profiter directement.
Absolument. Hein ? Et puis je suis parti aussi sur quelque chose de simple, le bon sens. Moi je trouve qu'on est dans un monde trop compliqué. On est dans le monde de la quantité. Tout à l'heure, vous parliez de bandes dessinées, d'édition. Vous disiez, bon, bah, il sort 7 bandes dessinées par jour. Il sort des dizaines de bouquins chaque jour également, et on est arrivé au point de saturation. L'homme est ce qu'il est, une journée est ce qu'elle est, et on ne peut plus tout faire. On est pollué par l'information, trop d'informations nuit à l'information, trop de produits nuisent à la terre, et aujourd'hui on croule sur une masse de choses qu'on ne peut plus digérer. Alors, moi, j'ai choisi quand même la consommation. Mais une consommation raisonnée, raisonnable. Pourquoi ? Parce que pour trouver des solutions à un problème de société, faut arrêter de rêver. Dans le domaine de l'écologie, on entend de magnifiques discours depuis 30 ans. On fait des colloques. On fait des tas de choses, des conférences. Mais chaque année, moi, j'ai l'impression... et je ne suis pas le seul, que ça va chaque année plus mal que l'année d'avant. Alors, je suis parti d'un constat. Dans notre société, dite de consommation, on a deux dénominateurs communs. On est citoyen et on est consommateur. Citoyen, comme dicton le dit souvent, c'est un peu ferme-là ou coste-jour. Donc, on voit le résultat des courses, c'est que à peu près 35% aujourd'hui des citoyens vont voter. Hein, ça se passe.
Ça me paraît encore trop, mais enfin, c'est mon opinion.
Mais bon. Par contre, en tant que consommateur, là, on nous harcèle en tout lieu et en tout temps pour qu'on achète souvent tout et n'importe quoi. Alors moi, je me suis dit, mais puisque d'un certain côté, on ne sert plus à grand-chose, puis de l'autre côté, on est adulé, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Alors moi, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle les Consommes Acteurs.
C'est ça qui m'a séduit, d'ailleurs.
C'était un néologisme qui...
Oui, Laurent Joly.
Qui vient du Québec, paraît-il, qui est utilisé déjà par un réseau de magasins qui s'appelle... qui a un magazine qui s'appelle Consommation. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas les consommateurs, comme dans les années 30, 40, 50, il y avait en France les coopérateurs de France. Moi, je me suis dit, je vais créer les consommateurs associés. D'autant plus que, vous savez que je suis en pré-retraite depuis... 2 ans et que j'ai passé 20 ans moi dans la publicité et le marketing.
Après avoir empoisonné les gens, vous voulez les désintoxiquer que ça ?
Alors, pas tout à fait, parce que moi j'ai été, vous savez, avant de vendre de la publicité, j'ai vendu des tas de choses. Moi j'étais VRP et j'ai roulé quand même ma caisse, comme on dit, dans pas mal de domaines, ce qui me permet d'avoir une vision assez panoramique du monde dans lequel on est. Et d'avoir ce bon sens que beaucoup d'intellectuels et des narques ou de politiciens n'ont pas, pour aborder en fait des sujets majeurs de consommation. Alors, moi j'ai essayé il y a 2 ans de créer un magazine annuel sur les écoproduits. Pourquoi les écoproduits ? Parce que Nous sommes dans un monde technicien aujourd'hui où, on le voit bien, on produit un certain nombre d'objets, mais si il y a un problème d'écologie, c'est parce qu'on consomme trop d'énergie ou on pollue de trop. Or, aujourd'hui, avec la technologie dont on dispose, on est capable de résoudre tous ces problèmes-là. Mais le pouvoir politique en place ne fait pas grand-chose. On gesticule, mais il y a de tels enjeux actuellement, et nos politiciens sont plutôt là pour se servir plutôt que de servir.
Pour servir, oui, ça,
ouais,
c'est ça,
tout le monde le sait aussi. Donc, l'écologie, c'est le cadet de leurs soucis. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était un domaine qui, dont on parlait sérieusement. Aujourd'hui, bon, c'est dans les manchettes quand il y a une catastrophe, mais on n'en parle pas de
c'est
façon...
C'est galvaudé complètement. Enfin, on s'amuse avec des histoires, triez vos bouteilles, triez vos machins, et puis on en reste là, quoi.
On en reste souvent là. Alors, moi, j'étais parti du principe que, puisque en tant que consommateur et consommateur, on pouvait choisir, en fait, ces objets, il y avait certainement quelque chose de très pragmatique. Par sa consommation, raisonnable, raisonné, on pouvait
faire
infléchir,
faire du concret.
Et chaque jour, puisque on consomme donc chaque jour, on avait un certain nombre d'actions qui nous permettaient au quotidien de résoudre des problèmes que, en haut de la pyramide sociale,
c'est donc sagesse de consommateur pouvait éventuellement régler une partie du problème.
Absolument.
Ouais, très bien.
Et j'étais parti sur l'idée qu'un magazine traitant des éco-produits, donc des produits issus de notre société, pouvaient intéresser un certain nombre de fabricants, ne serait-ce que ceux qui les produisent. Et ça a été, je dois vous l'avouer, le plus grand bide de ma carrière. Ces 20 dernières années, j'avais aidé des éditeurs à sortir à peu près 8 à 10 titres annuels de presse spécialisée où je trouvais de la publicité pour faire vivre ces magazines, parce que c'était dans des domaines du monde de la décoration. Donc là, maîtrisant bien le sujet des éco-produits, je me suis dit, j'y vais les doigts dans le nez. Et je me répète, ça a été le plus grand échec de ma...
Mais comment vous expliquez cette erreur?
Bah, par la saturation également. Et puis, par les moyens de communication modernes. Si l'état actuel de la planète est problématique, moi, je pense que l'état actuel dans lequel se trouvent nos concitoyens en France, je sais pas ce qui se passe dans les autres pays, est dramatique. Aujourd'hui, vous avez une partie des gens dans les sociétés, même dans le privé, qui sont entièrement démotivés, qui sont plus tellement capables, une partie bien sûr qui est au chômage, et puis les bons, eh bien ils se retrouvent souvent à des surchargés de travail et ils n'ont plus le temps de rien voir.
C'est curieux, ça me fait penser à ce que disait François Plantet tout à l'heure sur l'infestation diabolique, parce que je suis pas un grand voyageur, mais quand on va un petit peu à l'étranger, on a l'impression que l'espèce d'accablement qui pèse sur les Français n'existe pas en Italie, en Espagne. Là, j'étais en Belgique le week-end dernier. Dans les Belgiques, c'est quand même pas le bout du monde. Les gens sont souriants, ils sont détendus, on circule facilement en voiture. On est reçu, on va dans un restaurant, on est reçu gentiment. C'est un pays, enfin Bruxelles, c'est un endroit délicieux. La ville est bizarre, elle est toute de briques et de brocs, mais on passe d'un quartier chic dans un quartier populaire, on tourne dans le coin de la rue, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de... Et puis surtout, les gens ont l'air heureux, enfin heureux, ils n'ont pas comme en France.
Ils font pas la gueule.
Voilà, ils font pas la gueule, c'est ça. Ouais. Alors, bon, non, enfin, c'est comme
ils
ça.
Les gens ne sont plus accessibles, et je vous dirais même qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Je vais vous donner citer une anecdote pour que vous compreniez bien la situation. Dans le cadre de mes fonctions, en président Les Consommateurs Associés, qui est une association qui fait du commerce, puisque nous avons ouvert un site récemment, il y a à peu près un mois, qui propose des objets écologiques au quotidien.
On va en citer deux, parce que ils sont très, très, très amusants, je trouve. Voilà.
Absolument.
Il y en a un que j'aime particulièrement, l'autre qui me fait beaucoup rire. Oui.
Mais je vais vous citer une anecdote. Dans le cadre de ma recherche d'objets écologiques, j'ai recherché pendant des mois un bon chargeur de piles rechargeables et des piles rechargeables. Puisque des piles, on en consomme des milliards sur cette planète, qui contiennent des métaux lourds, qui vont dans les centres d'enfouissement, et c'est une des plus grosses pollutions du monde, aujourd'hui. Et j'ai rencontré
des responsables commerciaux de firmes internationales, puisqu'en général, ce sont des grosses multinationales maintenant qui produisent ou qui distribuent ces piles. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que même un directeur commercial, je ne citerai pas par courtoisie son nom et le nom de sa firme, mais un directeur commercial d'une des plus grosses entreprises distribuant des piles rechargeables en France, quand je lui ai dit je me spécialise dans les éco-produits, il m'a dit quoi ? C'est quoi un éco-produit ? Et en même temps, dans la propre documentation de cette société, il y avait un fascicule de 4 pages sur la défense de l'environnement. Et ce monsieur qui est directeur commercial n'avait pas fait
le rapport
entre défense de l'environnement et éco-produits. Voilà où on en est actuellement en France.
C'est un des aspects du malaise.
Absolument.
Alors j'avais dit qu'on parlerait... Donc vous allez nous indiquer votre association, comment on peut la contacter et tout, mais je voudrais donner... Parce que ce qui m'a intéressé dans votre projet, c'est qu'il est concret. Hein, c'est-à-dire vous ne vous contentez pas, comme je l'ai dit, de faire des discours, mais vous dites, on va trouver des produits. Alors il y a un produit que je trouve formidable, moi, qui, c'est tellement élémentaire qu'on s'étonne que personne n'y ait pensé plus tôt. C'est un aérosol sans gaz. C'est-à-dire qu'on nous bassine depuis des années à nous dire les aérosols, ça envoie des gaz dans l'espace, le trou de l'ozone, la couche de je ne sais quoi, c'est dangereux, c'est ci, c'est là et tout. Or, Michel Bauger propose un truc qui est génial. On ne peut pas le montrer, mais... C'est tout simplement un aérosol qu'on gonfle. Parce que le bouchon possède un piston. Avec le piston, on appuie sur le bouchon, ça remplit la...
Comme une pompe à vélo.
Voilà, exactement comme une pompe à vélo. Ça fait une recharge d'air. Et le contenu liquide est pulsé par l'air. Et puis quand c'est plus pulsé, on remplit de nouveau.
Il y a une petite phase Shadok. Il y a une petite phase Shadok qui permet justement d'avoir plusieurs secondes de micronisation. Parce qu'il existe des pulvérisateurs à poussoir. Mais enfin, ça projette des gouttes d'eau. Là, vraiment, on a pratiquement la micronisation qu'on obtient avec des aérosols à gaz.
Alors, la seule différence,
on peut maintenant... J'en ai un pour l'eau et j'en ai un autre pour des huiles. Des huiles notamment de table. Mais ce qui est quand même extraordinaire, et vous allez voir la différence, c'est que les brumisateurs d'eau du commerce, je ne vais pas citer Ted Napon.
La caméra numéro
2. Oui, voilà. C'est l'avantage de la radio. Mais enfin, bon, il y a deux marques d'eau.
La célèbre chanson.
Donc il y a deux grandes marques en France qui font de l'eau qu'on peut boire et que l'on met dans des brumisateurs d'eau. Alors la différence, c'est que sous cette forme-là.
Le brumisateur officiel
qui est avec un gaz à l'intérieur. J'ai fait le calcul parce que dans la bombe de 150 millilitres, vous avez un gaz propulseur qui occupe du volume. Mmh. Et puis quand il n'y a plus de gaz, il reste encore de l'eau. Alors j'ai fait le calcul sur plusieurs bombes. Je me suis aperçu que sur 150 millilitres affichés sur la bombe, on ne s'en pulvérise que 90 centilitres. Alors ça fait ramener au litre d'eau pulvérisé entre la... Dans ce format-là, 150 millilitres, 230, je parle encore en francs, 250 francs. Mais il existe des bombes de 50 centilitres, et là, on arrive à 550 francs.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous payez
l'eau,
550 francs le litre.
De 230 à 550.
C'est une très bonne eau, il vient en fort connaître, mais l'eau que vous avez dans une bouteille, si vous la mettez dans le petit récipient
elle ressort sous forme La différence, c'est 20 000% moins cher. Vous voyez, c'est plus fort que telle marque qui dit que venez chez nous, on va vous faire 25% de remise, 50% quand on discute et qu'on prend plus un centime de... Nous, c'est 20 000% moins cher.
Ça ne marchera jamais, vous allez ruiner Douste Blasi.
Alors, je vais ruiner Douste Blasi, mais il faut le savoir.
Vous croyez qu'il touche sur les brumisateurs?
Non. Il y a du gaz dedans, c'est pour gazer les vignes.
Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'ils ne peuvent pas me créer d'ennui, en ce sens que si je mets de l'eau intel, c'est la même qu'il y a dans leur brumisateur officiel. Donc c'est la même eau, mais d'un côté je dis c'est le monde virtuel, c'est le monde de la bêtise. Puis vous avez le monde de la réalité.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous savez qu'Evian, que les femmes utilisent pour se brumiser le visage, si vous lisez Evian à l'envers, ça fait naïve.
C'est très beau. Je n'y avais pas pensé. C'est merveilleux.
Mais avec Vittel, ça marche pas. Non, tout de suite.
Mais vous voyez, d'un côté, c'est Salvador Dali, puis l'autre, David Adolar.
Oui. Alors la deuxième machine, ça, je viens de la découvrir, mais elle est trop rigolote.
Parce que vous savez que les lampes de poche, on en a, c'est quand on en a besoin.
Ça marche jamais.
Ça marche jamais parce que la pile est toujours à plat. Quoi, tu sais, parce
que malgré ce que disait Vonder,
surtout quand on s'en sert pas. Donc en général, on accroche la. Enfin, moi je fais ça à la maison. J'accroche la lampe de poche à côté du compteur.
Ouais.
Et quand on a une panne de compteur, on va chercher le truc.
Absolument.
On allume, à ce moment-là,
il n'y a plus de
rien, du noir. Et alors, donc là, il a découvert un truc génial qui est, ça ne peut germer que dans l'esprit d'un toqué intégral. C'est une lampe à manivelle. Alors, à l'intérieur, il y a une dynamo. Donc, vous entendez? Vous faites ça, vous chargez la dynamo, ensuite vous avez un petit bouton, et quand vous êtes plus à droit point, voilà, vous avez de la lumière froide.
Voilà.
Mais il y a mieux encore, ça il faut quand même le dire, c'est que vous savez que la lumière attire les moustiques.
Oui.
Non mais c'est terrible. Et là, vous pouvez vous promener dans la forêt, dans la jungle, quand vous tombez à sec, vous tournez, vous avez de la lumière en pleine nuit, et vous voyez un moustique qui arrive. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur un zigougui, et en prime, alors moi je l'entends pas parce que je suis sourd naturellement à force.
Qui en même temps.
Alors, en même temps, je sais pas, est-ce qu'on entend
non, on entend rien. Moustiques.
Enfin, les moustiques, eux, entendent. Alors, il y a deux bruits. Il y a un bruit que j'aurais bien voulu faire entendre.
C'est la libellule qui est près de le prédateur. Non, c'est le battement d'aile de la libellule.
On l'entend là, donc il faut arrêter maintenant, ok. Alors Franck n'est pas content du tout parce que tous ces instruments s'affolent.
Oui, mais il n'y a plus un moustique chez nos auditeurs.
Voilà, il n'y a plus. Alors je disais que je proposais à Franck de le faire en diffusion permanente sur nos antennes et de dire Radio Contosy, la seule radio qui chasse les moustiques. Mais il n'est pas d'accord, il dit que ça fait parasite et que c'est pas bon. Donc tant pis, on se trouve. Alors, non mais en plus, c'est un bel objet. C'est marrant comme tout, ça a une forme.
Un beau design.
Et ce qui est très amusant dans cette affaire de lampe dynamo, c'est quand on pense que c'est sur le marché depuis les années 20. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit, mais mon grand-père l'avait. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, mon grand-père en avait une. Mais pas avec une.
Non, pas comme ça.
Pas avec un accu. Il y avait
une lampe de chasse moustique
que l'on pressait dans sa main et qui générait un flux lumineux. Mais quand on s'arrêtait, des crampes également. Mais quand on s'arrêtait, il n'y a pas de lumière. Là, la technologie d'aujourd'hui nous permet d'avoir un produit relativement élaboré parce qu'il n'y a même plus d'ampoules. Ce sont des diodes. Une diode, ça dure 100 000 heures. Et on peut actionner la dynamo pendant 30 secondes et on a déjà une heure et demie, deux heures.
Alors, si vous permettez, Michel, on va faire une expérience parce que nous, on est des vieux birbes, donc on est en admiration dans les trucs impossibles. Mais je parle pas pour le marquis.
Encore pire que ça, je suis dans le pétrole.
Mais nous avons deux jeunes gens qui sont tout frais, qui viennent de sortir de l'œuf pratiquement, qui s'appellent Marie de Saint-Éloi et Édouard de Tersac. Qui viennent pour parler d'autre chose, mais vous êtes admiratif devant ça, Marie de Saint-Éloi, ça vous plaît beaucoup, et vous, Edouard? Parlez dans le micro.
J'avais vu le même concept avec une sorte de rasoir à manivelle, électrique, exactement le même concept.
Un rasoir à manivelle?
Oui.
Je ne l'ai plus trouvé. Je l'ai trouvé il y a 10 ans, mais la boîte a arrêté de
fermer.
À la fermer.
Faut la fabriquer. Faut fabriquer.
Ça tournait à 12 000 tours minute avec une ficelle. Ouais, c'était le rasoir gyroscopique.
En plus, on peut le poser, il tombe pas. S'il est gyroscopique. En tout cas, moi j'aime beaucoup tous ces objets. Alors vous allez.
On a un site qui s'appelle, c'est pour les gens qui voudraient prendre en note. On a donc créé un site internet qui nous permet de proposer aujourd'hui, un nombre relativement limité d'objets écologiques et d'éco-produits, une trentaine, mais nous avons en portefeuille, nous pouvons, si nous avons le temps, ça fait un peu.
On attendra une dizaine d'années.
On attendra quelques mois, mais on a la possibilité de pouvoir référencer à peu près 150 à 200 éco-produits, des produits donc qui sont en général, qui sont écologiques, qui sont souvent, entre parenthèses, intelligents, et qui sont dans la plupart des cas économiques. Parce que une lampe comme ça, coûte un peu plus cher, mais vous n'avez plus besoin d'acheter de piles. Vous ne changez pas les ampoules.
Et surtout, vous ne faites pas engueuler chaque fois que vous avez une pile de courant par quelqu'un qui vous dit « Dis donc, t'aurais quand même pu penser à acheter des piles. »
Donc, c'est intelligent. Souvent, c'est sécuritaire. Là, dans le cas des bombes aérosols, il n'y a pas de gaz propulseur dangereux. Et ce site que nous avons créé il y a à peu près un mois s'appelle Consomme Acteur. C'est un néologisme, je vais appeler C-O-N-S-O-M-A-C-T-E-U-R.
www.radiocampus.com.
Écoute bien, Jean, il y a peut-être quelque chose à gagner encore.
Alors, nous avons un bureau boutique dans Paris, au 6 rue Montbrun, dans le 14e.
6 rue
Montbrun.
Montbrun.
C'est comme le Mont Blanc, mais brun.
Mais brun, d'accord.
Voilà, mais on va le blanchir.
C'est dans quel arrondissement?
Dans le 14e, et on a un numéro de téléphone.
Mais vous ne faites pas que de la boutique, vous avez une association.
C'est une association, mais bon, c'est un bureau boutique. On est aujourd'hui, d'accord. On démarre, cette association démarre. Elle en est à son...
Très bien. Alors, voilà. Michel Baugé.
Et le téléphone.
01 43 22 08 67.
Je vais en profiter pour faire une annonce solennelle. Madame de Bekech, directrice du Libre Journal, 4 Place Francis, Paris 10e, m'a demandé que dorénavant j'insiste auprès de Victoria pour qu'elle me fasse une photocopie de toutes les notes qu'elle prend pour que le lendemain, quand on lui téléphone, Madame de Bekech ait sous les yeux de quoi répondre. Voilà.
Bien, chef.
Oui, parce que la dernière fois, on a eu 250 000 appels pour le docteur Portalet.
Alors, il faut chercher dans les tas de trucs, tandis que là, si on lui fait une photocopie de tout, ça ira très bien.
Donc là, merci, ça va être pareil demain. Cher Victoria. On aura 200 000 appels pour Michel Baugé, l'association Consommateurs, 6 rue Montbrun. Voilà une adresse enfin facile à retenir dans le 14e.
Moi, j'ai fait mon boulot, maintenant je suis tranquille vis-à-vis de la directrice.
Vous n'avez pas besoin de tirer comme ça. Merci Michel. Et puis, quand vous aurez des produits aussi rigolos que ceux-là, moi je ne sais pas pourquoi je trouve ça génial.
Ça
m'amuse beaucoup. C'est joli en plus. Hein.
Ah oui, c'est un bel objet.
Voilà. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il y a une télé dessus, mais c'est. Victoria, vous avez des annonces avant de donner la parole au marquis et aux jeunes gens.
Alors, les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont exposées à la nouvelle église Saint-Honoré des Lots, 66 avenue Raymond Poincaré, jusqu'à demain soir, jeudi 4 à 22h.
Et elles font le tour des églises charismatiques en ce moment. Voilà.
À l'occasion du 80e anniversaire de l'association La Demeure Historique, le Cercle du Patrimoine vient de publier la biographie de son fondateur. Joachim Carvalho et l'œuvre de la demeure historique retracent le parcours extraordinaire d'un des plus grands défenseurs du patrimoine historique français. Son auteur, Alix de Guitaud-Vienne, signera son livre sur le stand de la demeure historique le samedi 6 et le dimanche 7 novembre de 11h à 16h. Et pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 48 87 75 61. Le samedi 6 novembre prochain, premier samedi du mois, organisation de rosaire pour la vie. Notre-Dame de Paris, 16h15, Basilique de Saint-Denis, 15h, Cathédrale de Meaux, 15h45, Basilique de Longpont, 16h30, Cathédrale de Versailles, 17h, Cathédrale de Nanterre, 17h. Tout renseignement, deux numéros de téléphone, le 01 43 87 81 70 ou 01 41 78 64 99. Une manifestation contre la chasse aux loups est organisée le samedi 6 novembre à 14h30, place du Panthéon à Paris 5e.
Il ne doit pas y avoir beaucoup de chasseurs de loups, place du Panthéon.
Oui, mais il y aura des défenseurs. Oui. Brigitte Bardot, en particulier, sera présente pour dénoncer ce plan loup qui doit absolument cesser. Renseignement, Fondation Brigitte Bardot, téléphone
Brigitte Bardot.
01 45 05 14 60.
Elle est jalouse, Victoria, parce qu'on est content de voir Brigitte Bardot.
Mais non, parce que vous parlez, mais on va pas entendre qu'elle est là. J'aime beaucoup Brigitte Bardot.
Ah bon, bah,
d'abord, je l'ai doublée, alors. Bon.
C'est vrai?
Autrefois, oui, dans un film italien.
En voiture?
Je vous ai laissé l'affaire.
Bon, merci. C'est parfait. On continue, on se dépêche. Samedi prochain, 6 novembre, de 15h30 à 18h30, le docteur Georges Pourtalet dédicacera le corps à ses raisons que la médecine ignore. Et Marie-Madeleine Del Perugia dédicacera le marquis de Montcalm. Quant à la dédicace de Monsieur l'abbé Barthes, elle est repoussée d'une semaine au samedi 13 novembre. Tout ça se passe à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Où on trouve aussi le Libre Journal. Je signale pour les gens qui souhaiteraient lire le Libre Journal, mais qui ont peur d'être abonnés.
Ou éventuellement l'acheter au numéro, non ?
Ils peuvent l'acheter au numéro à la librairie France Livre ou devant l'église Saint-Nicolas, juste à gauche. De l'église. Pas sur le parvis, parce que c'est interdit.
Il ferait une économie en s'abonnant.
Comme d'ailleurs, c'est interdit de le vendre sur le parvis de l'église Saint-Eugène.
Oui, où elle est vendue quelquefois. Il est vendu.
Non, pas sur le parvis, enfin pas devant l'église.
Il n'y a pas de parvis à Saint-Eugène, c'est un trottoir.
Le
trottoir est interdit au
câbleau
du Libre-Jean. L'Institut de la Restauration Nationale.
Pourquoi?
Pardon. Et alors, bon.
Allez-y.
L'Institut de la Restauration Nationale annonce la conférence du général Pierre Gallois le mardi 9 novembre à 20h précise. Le défi à la nation, salle de ASIEM, 6 rue Albert de Laparon, Paris 7e. Le Cercle d'amitié française de Paris et Bernard Anthony vous invitent à une soirée de rencontre avec leur commandant Raymond Muel, écrivain et historien, sur le thème « La guerre d'Algérie en France, 1954-1962, la prise en main des Algériens en France par le FLN, les méthodes pour le vaincre ».
C'est un grand spécialiste, le commandant Muel, il faut le savoir. Il a travaillé dans les milieux Felaga en France à l'époque, et il connaît parfaitement cette question. Il est passionnant. Il a écrit un livre d'ailleurs passionnant, malheureusement le titre ne me revient pas, mais enfin, qui est essentiel sur la guerre d'Algérie en France. Je me demande si c'est pas le titre d'ailleurs.
Le cercle, donc j'en étais donc à mon cercle d'amitié française. Ça se passe le mercredi 10 novembre à 19h30 précise au 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Et la soirée est placée sous la présidence de maître Georges-Paul Wagner. Elle sera suivie du verre de l'amitié et de la signature de ses ouvrages par le conférencier. Participation aux frais 8 euros, étudiant 4 euros. Depuis 1963, une prière spéciale est dite le 11 novembre sur la tombe du colonel Jean-Bastien Thiry pour tous ceux qui sacrifièrent leur vie à la défense de l'Algérie française, unis dans notre souvenir à tous ceux qui sont morts pour la patrie au cours des deux dernières guerres mondiales et des combats outre-mer. Donc vous êtes invité à cette cérémonie qui aura lieu le jeudi 11 novembre à 15h au cimetière de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, rue de la Bièvre. C'est le cercle Jean-Bastien Thiry, boîte postale 70, 78170, La Selle Saint-Cloud. Enfin, dans le cadre des conférences des cercles littéraires du Roseau d'Or, Olivier de Bois-Boissel parlera de Pierre Paolo Pasolini, romancier, le jeudi 18 novembre de 20h à 21h, au patronage Notre-Dame de la Salette, salle Saint-Jean-Bosco, 29 bis rue de Dantzig, Paris 15e. Métro convention.
Un patronage pour parler de Pasolini, on ne peut pas rêver mieux.
Ça, faire sur Luis Mariano la semaine d'après.
Je rappelle aux nombreux auditeurs qui le demandent que les obsèques d'ADG seront célébrées en l'église Saint-Eugène, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e, le vendredi 5 novembre à 10h.
Et je rassure le curé, on ne vendra pas le Libre Journal.
Et puis, le livre que vous avez présenté tout à l'heure s'appelle BD Guide 2005. C'est la collection Omnibus. Il y a 1792 pages et
non,
ça coûte 30 euros.
1972.
Ah bon,
enfin, il y a beaucoup de pages.
J'ai inversé. Bon, on nous demande les références du disque sur Laval. C'est bien, le docteur est parti avec lui. Planté vous êtes, vous n'aurez pas.
Vous êtes planté, voilà.
Vous n'aurez pas ces références.
C'est très amusant.
C'est Franck qui l'a fait le premier.
Ah bon.
Bon, un auditeur vous signale à propos du 13 mai 58, voilà, qu'il existe un livre d'Henri Pajot aux éditions Les Quatre Fils et Monts où tout ce que vient de dire François Plantet sur la participation des musulmans au 13 mai est corroboré par des photos des grands rassemblements dans les villes mais aussi dans les villages. Et en conclusion sur l'Algérie, en 1935, Henri de Monterland a écrit « Il y a encore des paradis » après un voyage en Algérie.
C'est pas le pire.
Et Raymond Muel, donc, le titre de son livre, on l'a reçu immédiatement. Ça, c'est, nos auditeurs sont formidables, on le sait. 7 ans de guerre en France, édition Grancher, 22 euros.
Merci Jean.
Excellent livre de Raymond Muel.
Je ne sais pas si vous avez une adresse pour les objets consommateurs.
6
rue Montbrun. Ben oui, on l'a donné.
Dans le 14e. C'est quelqu'un qui.
Il y avait quelqu'un qui ronchonnait qui n'avait pas noté. Bon, ça y est.
Non, ronchonnait pas, il demandait. Eh bien, avant d'en finir avec les jeunes gens qui viendront en dernier, parce que c'est comme c'est la règle, place aux vieux et à la minute du marquis.
Mais même si c'est pour la musique, on va gagner du temps, non ?
Ah non, on va faire un tout petit bout de musique.
Un tout petit bout, alors. Hein ?
Alors Marquis, quoi de neuf dans le grand monde ?
Ben, je vais vous donner des nouvelles de ma boutique, si vous voulez bien. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais nous bénirons les animaux. Enfin, pas moi, Monseigneur Dominique Fils, bénira les animaux, tous les animaux, le dimanche 7 novembre à partir de 14h30. La messe ayant lieu à 15h, la bénédiction après. 27 rue François Bonvin, l'église Sainte Rita. J'en profite pour dire que je suis très content d'annoncer que Monseigneur Dominique Philippe a reçu les insignes de chevalier du mérite agricole de la part du ministre de l'Agriculture pour son action envers les animaux. J'aurai le plaisir, le lundi 24 janvier 2005, de lui remettre cette décoration. Vous serez tenu informé pour ceux qui veulent venir boire un verre avec nous.
Vous savez qu'un mot quand même, c'est extraordinaire, cette république laïque qui donne le mérite agricole à un prêtre parce qu'il bénit les animaux.
Oui.
Tout n'est quand même pas pourri.
Non, je sais pas.
Voilà, c'est bien.
Et le courrier portait Monsieur l'archevêque. Alors, une autre chose, après, je laisse parler ces jeunes gens. Je suis un peu embêté parce que vous savez que le prince Louis-Alphonse se marie à Saint-Domingue samedi. Et alors, comme personne n'est invité, bien entendu, l'Institut de la Maison de Bourbon a décidé de célébrer une messe à 18h aux Invalides. Ça correspondra à peu près à ce qui se passera à Saint-Domingue à ce moment-là. Il était indiqué dans l'annonce du Figaro qu'on pouvait assister à la réception qu'il y aura après. Alors, comme d'habitude, il y a un numéro de téléphone et avec des horaires. Et comme d'habitude, on peut appeler 250 fois dans les horaires indiqués tous les jours. On tombe toujours sur un répondeur. Et après, quand on arrive à la réception, on dit « Monsieur, on n'a pas votre réservation ». Alors voilà, vous pouvez toujours essayer. Vous reprenez le Figaro, c'est paru dedans.
Parce qu'il faut réserver pour aller à la messe maintenant.
Non, pour aller au casse-croûte après.
Au casse-date.
Oui, voilà.
Oui, mais si le roi n'est pas là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Non, mais c'est l'histoire. C'est les derniers feux de l'affaire. Hein. Alors bon, voilà.
Bon, eh bien voilà, si vous voulez être invité au banquet de noces royales en l'absence des intéressés, vous pouvez téléphoner au numéro.
Essayez de téléphoner à l'Institut de la Maison de Beaumont. Je donne pas le téléphone, ça sert à rien, ça répond jamais.
Essayez quand même, vous l'avez.
Mais non, je l'ai pas.
Vous l'avez pas. C'est pour ça que ça répond pas. Marie-Cette Éloi, bonsoir.
Bonsoir.
Édouard de Tersac, bonsoir aussi. Donc vous êtes venu nous parler d'un forum de la France chrétienne dont vous êtes les animateurs, les organisateurs,
Nous participons à l'organisation.
Participateurs.
Eh bien écoutez, d'abord je vous remercie de nous accueillir, Édouard et moi, dans votre émission. Donc je viens vous parler.
Il faut parler bien fort dans le micro parce que vous avez
une
petite
voix
de jeune fille.
Pas à côté, juste dedans. Voilà. De la prochaine conférence de Forum de la France chrétienne avec le père Louis-Marie de Binière, le prieur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Donc cette conférence se déroulera vendredi 5 novembre, vendredi prochain, à Paris, sur le thème Saint-Dominique et la nouvelle évangélisation. Donc, comme les auditeurs ne sont pas toujours les mêmes, je veux peut-être représenter Forum de la France chrétienne. Alors, au départ, il s'agissait d'un groupe d'amis avec quelques animateurs de Radio Courtoisie, comme Anne Brassier et Aude de Kéros. Et donc, Forum de la France chrétienne fait intervenir des personnalités de haut niveau.
Pas toujours, parce que j'ai été invité, donc vraiment, vous avez le spectre très large.
Des personnalités de haut niveau, dont des personnalités religieuses qu'on ne rencontre pas facilement, pardon. Donc je pense au cardinal Paul Poupart, qui est président du Conseil pontifical pour la culture au Vatican, donc qui nous avait parlé du christianisme à l'aube du troisième millénaire. Je pense aussi à Monseigneur Patrick Le Gall, qui est évêque aux armées, et plus récemment, Monsieur Roland Hureau, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'ENA. Le compte-rendu de sa conférence sur la démographie a été rédigé par Maître Bertrand Michaud, qui est avocat au barreau de Paris. Pardon. Et donc, Édouard vous en parlera un peu plus. Le Forum de la France chrétienne permet aux participants d'élargir leur cercle d'amis et de mieux connaître l'orateur autour d'un buffet constitué par eux. Donc, en général, les filles, les dames apportent les nourritures solides, terrestres, et les garçons et les messieurs apportent des boissons. Donc rendez-vous vendredi prochain à 20h30 chez Nicolas de Kermadec dans le 9e. Je ne donne pas plus précisément l'adresse comme il s'agit d'une soirée privée. Je donne simplement un numéro de téléphone auquel il faut appeler pour s'inscrire. Donc le 06 20 35 55 48. Et donc je laisse Édouard parler un peu plus précisément du père de Binière.
Alors on pourra retrouver toutes ces informations sur
sur le site de Forum de la France chrétienne. Alors je donne l'adresse de ce site, c'est f.france.chrétienne sans accent .free.fr2e.fr. Donc on pourra retrouver en particulier par exemple le compte rendu de la conférence de Roland Hureau. Alors je vais en profiter pour parler de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, donc qui a été créée par le père Louis-Marie de Binière, qui en est le prieur. Donc dans le même état d'esprit que FFC, avec en particulier des activités religieuses en particulier. Donc je vais en citer quelques-unes. Alors par exemple, tout d'abord la préparation au mariage. C'est-à-dire des récollections de préparation au mariage.
Nous, ça y est, là, on est hors jeu. La préparation au mariage, c'est fait. On a préparé depuis longtemps. C'est plutôt pour vous, oui.
Ouais. Donc, au foyer de charité, ça se passe au foyer de charité de Poissy, dans les Yvelines. Alors, il y a aussi une autre activité très intéressante qui est intitulée Café Caté sur le Notre Père. Donc, c'est un concept très sympathique et assez nouveau, qui permet de se retrouver entre amis et de prier ensemble, et surtout aussi de renouer avec un certain type d'apostolat public. Donc c'est réservé, enfin entre guillemets réservé aux plus jeunes, donc c'est pour les étudiants et les jeunes professionnels de 18 à 35 ans, et ça se passe un mardi par semaine.
Si j'avais su il y a deux ans, c'était bon, mais là maintenant c'est fini, je peux pas.
Donc, oui, pas moi. Alors ensuite, je vais parler d'une messe.
Vous ne parlez pas des retraites du rosaire.
Ah si, ça vient en dernier, le meilleur pour la fin.
Oui, voilà.
Alors donc les messes, il y a une messe hebdomadaire.
Deux minutes, il nous reste. Hein, je vous le dis pour que.
Une messe hebdomadaire qui se passe à la chapelle Notre-Dame de Lys, qui est rue Blomet. Et enfin pour le meilleur pour la fin, les retraites du rosaire. Donc ce sont des retraites de 4 jours prêchées par deux pères de la fraternité Saint-Vincent Ferrier, et c'est un itinéraire spirituel qui est accessible à tous à partir justement des 15 mystères du rosaire. Et donc le début et la fin de la retraite, la fin de retraite se finit à 17h30.
Donc il faut dire que c'est comme les retraites de Saint-Ignace mais en plus humain.
Voilà. Et ça se passe toujours.
On en sort moins broyé.
Voilà, au foyer de charité de Poissy. Donc le meilleur moyen de se renseigner, donc c'est le site internet que j'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi bien sûr ça reste toujours de rencontrer le père Louis-Marie de Binière à la conférence d'après-demain du 5 novembre.
Donc je peux peut-être répéter le numéro de téléphone
auquel
il faut s'inscrire, le 06 20 35 55 48.
Merci Marie, merci Edouard. Hein, ils sont mignons tous les deux.
On est jaloux là, voilà. Je dirais la jeunesse flûte.
Oui, belle jeunesse. Quand on pense à ce qu'on a fait de la nôtre.
Oui, exactement.
Merci infiniment d'être resté avec nous si tard, et puis rentrez vite parce que pour les enfants c'est.
Ah oui, je vais être couché là.
Je crois que vous n'êtes pas vraiment un enfant, vous êtes docteur, non ?
Je suis étudiante.
Oui, étudiante, mais et bien plus, non ?
Étudiante en prépa.
Ah, ouais. Mais en réalité, elle est bardée de peau d'âne.
Déjà, oui.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Je ne serai pas là la semaine prochaine, sauf erreur de ma part. Je ne sais plus exactement. Faudrait que je vois ça avec un
jour.
C'est dans 15 jours. Bon, alors donc je serai là à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. Merci à tous.
Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Le programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Biquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 4, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative.